Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que, et je reprends ce matin le petit graphique que montrait Éric Brouillard sur les accès que les enseignants font aux ressources. Et c'est vrai, alors il faudrait le vérifier en France, voir si les ressources non officielles sont moins utilisées que les ressources officielles, mais il est clair d'abord, un, que les institutions officielles ont fait un énorme travail au cours des 10 dernières années pour développer elles aussi des ressources très importantes, auxquelles évidemment les enseignants se réfèrent très régulièrement, mais que dans le même temps, les réseaux alternatifs, confèrent par exemple l'association des professeurs de sciences économiques et sociales qui vient de publier un ouvrage, un manuel scolaire, on le voit bien, des initiatives alternatives continuent de fonctionner. Le modèle n'est pas complètement fermé, il n'est pas non plus en opposition. Et je reprendrai ce matin une opposition qui m'aurait un peu fâché personnellement, il n'y a pas une opposition entre des amateurs et des professionnels. Sachant que on rencontre des choses de toute nature aussi bien chez les amateurs que chez les professionnels dans le monde de l'éducation, soyons prudents là-dessus. Par contre, il est clair qu'il y a un souci de qualité permanent, mais ce souci de qualité touche aussi bien les amateurs qui veulent durer sur le web, qui se professionnalisent en partie au sens où ils en font profession, mais qui restent amateurs au sens où ils restent au sens propre du terme amateur, des gens qui s'investissent. Et je voudrais terminer cette présentation qui va faire écho, en faisant écho à ce que font les profs, à ce que font les élèves. En fait, il y a un terrain de rencontre étonnant, c'est que les militants de la première heure, et pas les militants pour eux-mêmes, mais les militants pour le bien commun, rencontrent aujourd'hui de plus en plus leurs élèves sur le terrain de la classe, et que le travail qui est engagé là trouve un écho particulier. Et nombre de nos collègues qui sont associés à ces réseaux ont trouvé dans l'interlocution avec les élèves une suite logique. Et les réseaux sociaux qui apparaissent et dont beaucoup de gens ont une grande peur, en fait, sont pas si éloignés que ça de la culture d'un certain nombre de nos collègues. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les élèves ont un souci qui est une réussite scolaire, les enseignants ont un souci qui est la qualité globale de l'éducation, les TIC ont parfois du mal à s'imposer là-dedans, si tant est qu'ils le faillent ou que ce soit pertinent à tous les moments. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et pour amorcer cet après-midi le travail qui va être fait, donc je vais donner la parole à M. Fourgous, qui lui vient d'écrire un livre qui nous intéresse au premier chef, puisque c'est une pédagogie pour une pédagogie numérique, donc on est au cœur du problème, et puis au-delà de ça, il essaye au niveau du gouvernement d'impulser une politique numérique qui s'est traduite par le plan Chapelle.
Merci. Alors, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer d'abord le problème culturel. On a un problème culturel au-delà de la politique, au-delà de l'économique. Hein. Il y a, pour cet accompagnement de changement, il faut se le dire entre nous, notre pays n'est pas toujours au maximum de sa performance pour le changement, et en fait on sent culturellement, bon, ça me rappelle d'ailleurs la théorie de ce matin que c'était notre ami Taddeï qui développait la théorie du macaque, vous vous souvenez, qui était pas mal, qui expliquait en fait celui qui avait du mal à s'adapter au changement, c'était en finale le macaque dominant, le mâle dominant. Bon, ça fait sourire, mais ça peut, voilà, c'est, peut se dire que ces traditions françaises, on a des outils. Bon, certes, il y a des problèmes économiques à gérer, il y a des problèmes politiques, encore qu'il n'y a pas un grand combat gauche-droite là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, on est devant des décisions d'accompagnement de changement qui vraiment sont le principal problème. Compte tenu que les TIC sont un accélérateur de changement. Donc, vous voyez, on est nous, en fait, tous ceux qui sont ici. Donc, a priori, vous êtes compétents et motivés pour les TIC. Eh ben, sachez que vous êtes des acteurs d'accompagnement de changement formidables. Si vous ne le saviez pas, eh bien, écoutez, voilà. Deuxièmement, de ce matin, moi, j'ai retenu que voilà, il y avait cette pluridisciplinarité qui est demandée et que véhicule, d'ailleurs, le numérique. Ben, effectivement, faire tomber les murs entre toutes ces disciplines, en les respectant, bien sûr, mais c'est vrai qu'entre les sociologues et les économistes, entre les théoriciens et les praticiens, entre le privé et le public, entre les technophobes et les technophiles, comme on le disait ce matin aussi, je dirais entre les traditionnels, que ce soit le livre et les innovants avec le manuel numérique, bon, je dirais que bon, voilà, il faut d'abord, il faut faire vivre tout le monde ensemble si vous voulez réussir, parce qu'en fait, on est ici quand même pour faire réussir quelque chose, une action, bon. Voilà, il y a des traditions culturelles françaises. Bah, écoutez, il faut essayer de les bousculer sans les agresser. En tout cas, le réflexe pluridisciplinaire me semble un bon élément. Autre point, la nouvelle répartition du temps d'apprentissage, c'est clair que demain, faire classe, ça ne ressemblera plus beaucoup. On l'a vu déjà ce matin avec Menamou qui nous a fait une bonne démonstration de siècle en siècle. Mais il est clair que le temps d'apprentissage, le lieu d'apprentissage, les supports d'apprentissage, c'est un vrai tsunami, donc ce qui se passe. Et voilà, on ne peut pas rester, bien sûr, sans réaction, sans accompagner ce changement. Et puis, bien sûr, il y a le rôle des enseignants. Alors moi, j'ai la deuxième mission, j'ai déjà une mission qui a essayé de faire bouger, de légitimer des initiatives. Mais la deuxième mission, c'est d'essayer de voir l'impact sur la pédagogie. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, qu'on ait des beaux ordinateurs, c'est bien, on est tous très contents, mais hein, la finalité, c'est les résultats scolaires. Vous connaissez le classement de PISA, on peut en discuter, mais enfin, il demeure qu'on n'est pas bien classé et qu'il faut profiter de cette révolution technologique, bien sûr, pour essayer de faire mieux. Donc, bien entendu, redéfinir le rôle de l'enseignant, redéfinir sa formation et, bien sûr, redéfinir le cahier des charges même de la pédagogie. Voilà ce dont il est question. Donc, tout individu qui aurait des idées, enfin, on en a quelques-unes, vous rassurez-vous, mais si quelqu'un voulait rajouter, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit en direct, soit par un site qui est dédié à cela, qui est utilisé pour la mission parlementaire, qui est rendue en février, qui s'appelle donc Mission Fourgous, F-O-U-R-G-E-S, missionfourgous-tis.fr. Sinon, sur la, bien entendu, l'enjeu c'est la pédagogie qui est classée en France comme trop frontale, trop verticale, trop magistrale, et qui est en train d'évoluer vers une pédagogie plus individualisée, ne serait-ce que pour quand vous avez des classes d'une plus grande diversité aujourd'hui en France, très hétérogène, bien entendu que vous ne pouvez pas gérer ça comme il y a 20 ans. Également une pédagogie beaucoup plus collaborative, c'est-à-dire d'utiliser ces fameux réseaux sociaux, puisqu'on voit bien que l'enfant, l'adolescent, l'élève, apprend une grosse partie, même quasiment plus en pédagogie collaborative qu'en pédagogie magistrale. Et puis surtout, on voit bien que l'essentiel, il l'apprend surtout en individuellement. Donc on ne peut pas rester indifférent à ces constatations, et bien entendu, on sent qu'on se dirige vers une pédagogie mixte qui va intégrer une pédagogie magistrale aussi, pour une certaine partie, individualisée, collaborative, bien sûr, et plus interactive, notamment avec le TNI que vous avez vu. Et puis, bien entendu, cette logique d'abandonner un peu le frontal, d'abandonner le vertical, bien sûr, cette horizontalité, hein, cette culture horizontale qui se dessine, qui arrive, bien sûr, fait la part belle aussi aux réseaux sociaux. Donc, il est clair que on arrive avec une vraie évolution. J'ai préparé un diaporama. Je ne vais pas vous le passer parce qu'il est trop long. Vaudra mieux qu'on fasse un peu d'interactif, je pense. Et moi, je vous donnerai des compléments. Tous les deux, on participera à la discussion. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Maintenant, moi, je vous propose de passer. Enfin, simplement vous dire que ça bouge, hein, ne pensez pas, la France bouge en ce moment, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, ça bouge. J'aimerais bien que ça bouge plus vite, vous aussi, je pense. Donc, vous voyez, on est là aussi pour sans brutaliser personne, parce que ça sert à rien. Vous savez, quand vous brutalisez quelqu'un, bon, ça y est, il est bloqué, puis bon, vous avez rien fait avancer. Hein. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Il y a nos enfants qui sont demandeurs. Les enseignants, je vous rappelle que les enseignants, ils étaient 48% à croire dans les TIS. En 2002, aujourd'hui, ils sont 95%. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Hein, c'est quand même eux les acteurs du changement. Mais attention, il y a nos enseignants et puis il y a aussi nos inspecteurs. Alors, les inspecteurs, en termes de motivation au changement, c'est perfectible. Hein. Bon, mais par contre, on sent que les enseignants, il y a une activité, une énergie là qu'il faut en tout cas utiliser. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Hein. On va tous dans le même sens. Et maintenant, je propose donc de passer la parole à Monsieur Luc Trouche, donc qui est professeur d'une université, Institut français de l'éducation, et qui a beaucoup de choses à nous dire.
Bien, bonjour, je vais vous parler en effet des métamorphoses du travail enseignant à l'heure du numérique. Et pour vous situer mon angle d'attaque, je dirais que pour moi, il ne s'agit pas de s'adapter au changement, mais pour me placer dans le fil de la communication de François Taddeï ce matin, de développer la créativité, la connaissance, la conscience, et en s'appuyant sur les acteurs. Que ces acteurs soient des enseignants, des inspecteurs ou des chefs d'établissement. Donc c'est le fil de cette communication que je vais faire. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, je voudrais peut-être dire un mot de l'IFE pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel Handler ce matin. L'IFE prolonge l'INRP, mais avec la volonté d'avoir un regard plus large et de regarder non pas seulement l'enseignement, mais l'éducation, c'est-à-dire dans et hors l'école, de regarder largement les occasions d'apprendre, et avec un regard aussi, des regards croisés et interdisciplinaires, ce qui rejoint ce que disait Daniel Handler ce matin. Et peut-être juste pour préciser de quoi il s'agit, pourquoi ça ne veut pas marcher, ça? Ça devrait... Hop, voilà. Un des outils que nous avons mis en place, c'est un séminaire international où la volonté est de questionner ce qui pourrait être les sciences de l'apprendre, avec un périmètre plus large que les sciences de l'éducation, qui rejoindrait au niveau international les communautés des learning sciences, et qui convoquerait des disciplines comme, évidemment, les sciences de l'éducation, mais la didactique, l'anthropologie, et aussi les sciences cognitives, l'informatique, avec trois thématiques qui seront travaillées plus particulièrement, les sciences de l'apprendre, les relations entre recherche politique et pratique, et les méthodologies de recherche en éducation, qui sont sans doute cruciales, parce qu'il s'agit de combiner à la fois des recherches qualitatives, mais aussi des recherches quantitatives. Donc la question de la preuve est essentielle, et pour cela, il faut sans doute des moyens importants, des moyens dont devrait certainement s'occuper l'Agence nationale de la recherche, pour lancer des appels à projets qui permettent de traiter, sur le fond, les apprentissages élémentaires en mathématiques, par exemple, ou les apprentissages élémentaires, lire, écrire, entre 4 et 8 ans. Alors, Daniel Handler disait rapprochement des sciences cognitives avec les sciences plus traditionnelles de l'éducation. Bon, il y a des rapprochements conjoints. Les différentes approches sont nécessaires parce que savoir, par exemple, que l'on dispose tous de calculateurs approchés, de calculateurs exacts, savoir, comme l'a montré Dehaene, que sans doute la faculté de comprendre la continuité des nombres avant leur caractère discret, la continuité précède sans doute la discrétisation, bien, savoir ça ne nous donne pas toutes les informations pour savoir comment on va concevoir des situations pour apprendre, comment on va développer les occasions d'apprendre. Si on pense, comme Vergniaud, que la résolution des problèmes, c'est la source et le critère de la connaissance. Bon, voilà, donc j'en finis là avec cette introduction. C'est vrai que pour comprendre comment on apprend, les faits sont indispensables. On parlait de tête pleine, tête bien pleine et tête bien faite. Les techniques élémentaires aussi. Et les études qu'on a pu mener sur les technologies montrent combien il est utile de concevoir non pas seulement des instruments, mais des systèmes d'instruments. L'expérience du laboratoire des machines mathématiques de Modène, où on travaille à la fois sur des machines très anciennes, des géomètres italiens, et avec des logiciels de géométrie dynamique, montre comment, pour les apprentissages fondamentaux, ceci est utile. Et là, je suis plus particulièrement à un travail où il s'agit de travailler sur les pavages du plan, en combinant à la fois un travail avec les gabarits, donc les gabarits des bouts de carton, et puis des logiciels de géométrie dynamique. Donc il y a un certain nombre de résultats qui doivent sans doute être travaillés. Mais je vais parler des enseignants, et en m'intéressant à la dynamique des changements, rapidement en montrant 100 ans déjà, mais si je dis 100 ans déjà, c'est parce qu'il y a 100 ans, c'est le nouveau dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, c'est intéressant de regarder ce qu'il dit sur le travail des enseignants, en évoquant quelques projets institutionnels récents, les réalités associatives, parler de métamorphose, m'intéresser aux dispositifs innovants et parler de perspectives de recherche, le tout assez rapidement parce que bon, l'interaction, c'est ce qui est le plus intéressant sans doute, puis ce séminaire est un moment parmi d'autres, il y a eu des choses avant, il y aura des choses après. Ce qui est intéressant dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, il y a 100 ans, article Conseil des maîtres, qui est un article fondamental de ce dictionnaire, l'école est une, quel que soit le nombre de ses maîtres, et tout enseignement est une collaboration. Donc l'idée que l'acte d'enseignement est un acte profondément social, profondément collectif, cette idée n'est pas nouvelle. Bon, on a pu en voir la preuve dans le développement du mouvement associatif des instituteurs, du mouvement corporatif, les grandes innovations pédagogiques du début du XXe siècle. Mais c'est vrai que quand on regarde ensuite la réalité du travail enseignant, en particulier dans le second degré, c'est pas tout à fait pareil dans les écoles. Le rapport Pochard de 2008 est très intéressant parce que d'abord il reprend une série de rapports et c'est important dans ces rapports d'en saisir la continuité. Il remonte au rapport Ribot de 1899 qui analyse le travail collectif des enseignants et qui dit les assemblées de professeurs sont des assemblées mortes et qui regarde tout au long du XXe siècle la culture de chacun chez soi, maître dans sa classe, qui est fortement partagée dans l'enseignement. et qui distingue avec l'arrivée des TIC une source d'évolution majeure avec une dynamique du collectif. Alors c'est ce que je voudrais voir, avec cette idée que le collectif qui apparaît maintenant, que rend visible le numérique, c'est un collectif qui, on pourrait dire, qui sourd, qui a toujours... comment on conjugue le verbe sourdre, qui a toujours qui a toujours existé, mais qu'on ne voyait pas forcément, qui a la racine de l'acte éducatif. Alors, je voudrais prendre deux autres rapports aussi pour montrer comment l'institution comprend les choses. Alors, on parle des inspecteurs, mais je crois que l'institution, sur le fond, a aussi du mal, pour des raisons de moyens, de culture, à mettre en œuvre ce qu'elle désigne comme étant nécessaire. Le rapport de la mission IEDUC, c'est 2008, et elle désigne comme nécessaire la création d'un observatoire national sur les TICE qui permettrait de faire travailler, vous voyez, bon, les pôles de compétitivité, l'éducation nationale, bien sûr, les associations qui sont pointées là comme des acteurs majeurs, les éditeurs privés, des organismes de recherche, avec un objectif. Bon, cet observatoire doit être mis en place, ne l'est pas encore. Il fait partie des choses qui sont pointées comme nécessaires et qui n'arrivent pas. Le rapport Fourgous, puisque vous présidez cette conférence, l'année dernière, c'est récent, et montrer un certain nombre de choses qui sont en effet nécessaires. Université d'été, un grand nombre d'enseignants qui doivent être formés, les enseignants accompagnés en ligne, chargés d'accompagner le changement dans l'établissement, 20% des crédits de formation fléchés pour la formation des TIC, une plateforme d'accompagnement, tout ça est sans doute nécessaire pour accompagner les initiatives individuelles. Ceci reste à faire. Alors, regardons maintenant ce qui existe. Et je vais regarder ce qui existe à partir de quelque chose qui peut apparaître comme une particularité française, une particularité disciplinaire, ces AMAT, donc, qui a été évoqué ce matin, mais qui pour moi est un effet visible de mouvement profond et quelque chose qui anticipe sans doute des choses qui vont se développer dans les années qui viennent. Ces AMAT, ces 100 adhérents, 5000 enseignants, vous le savez, dans des groupes de projets, plusieurs dizaines de milliers de connexions chaque jour pour avoir des ressources. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mouvement se constitue, pas dans un mouvement de consommation, mais avec une logique, on pourrait dire un esprit, travailler ensemble, s'entraider, communiquer. Il ne s'agit pas de consommer, mais de produire ensemble. Il y a quelques années, 2 ans je crois, il y avait eu un rassemblement des associations à l'École normale supérieure à Paris, avec le café pédagogique déjà, où les associations, Webled, Césamat, etc., avaient essayé de décrire leur façon de fonctionner, qu'est-ce qui les faisait agir, qu'est-ce qui les faisait avancer. Et on avait regardé avec une collègue, Ghislaine Guedet, comment on pouvait trouver une sorte de description commune, un modèle commun pour les associations. Et ce qui apparaissait nettement, c'est ce modèle de la pierre qui roule et qui amasse mousse, c'est-à-dire un noyau d'enseignants qui mutualise et qui, dans ce mouvement, approfondit la mutualisation, c'est-à-dire on ne partage pas seulement, on n'est pas seulement dans un pot commun, mais on réfléchit à développer ensemble des choses. Et dans ce mouvement qui agrège autour des enseignants qui sont simplement intéressés par récupérer des ressources, et puis ensuite un mouvement qui va vers la collaboration, donc un approfondissement qui interroge pas seulement quelles ressources je fais pour la classe, mais pourquoi je les fais, comment je les fais, quels sont mes objectifs, etc. Donc un mouvement où il s'agit de produire à la fois des ressources et des connaissances, et on apprend de son expérience et l'expérience des autres. Bon, il y a une thèse sur ces AMAT qui a été faite, qui va être soutenue dans un mois, qui regarde un des projets de l'association autour de la conception d'un manuel en ligne. Et où là, le rapport est direct entre quelles sont les contraintes. Il ne s'agit pas seulement de produire des ressources de façon éparpillée, mais il y a un ouvrage à concevoir. Il s'agit d'un manuel de seconde, et en partant de son expérience propre, en s'enrichissant de l'expérience des autres, on produit ces ressources-là. Et ce qui fait le cœur de cette association, c'est pas un conseil d'administration et un site où on télécharge des ressources, mais c'est de nombreux groupes de projets qui produisent pour eux et en regardant ce que font les autres groupes de projets. Alors ça me semble traduire une métamorphose profonde du travail enseignant, où on ne peut voir le développement professionnel, au-delà de la formation des enseignants, le développement professionnel comme en même temps, comme en miroir ou en interrelation profonde avec le développement d'associations ou de communautés d'intérêt, de communautés de pratique et le développement de connaissances. Alors, on a travaillé, par exemple, sur des enseignants qui décrivaient c'est quoi leur système de ressources, avec cette idée d'une structure. On n'a pas des ressources en vrac dans sa tête ou sur son ordinateur, mais des structures, une structure d'un système qui est liée à un système d'activité, bien sûr. Et alors, c'est tout à fait frappant de voir comme ce n'est pas principalement des ressources que l'on prend, mais l'horizon de cet enseignant, c'est les manuels, des cahiers maths en poche, des logiciels d'association où on prend et on produit. Donc c'est une relation toute différente entre conception et usage où les deux sont fortement entremêlés. Alors ça m'amène, je fais un peu de publicité pour un ouvrage parce qu'il vient de sortir il y a un an et qui traite justement cette question en concevant les ressources des enseignants comme des ressources vives et qui le traite aussi avec un ensemble de points de vue venus de l'informatique, un chapitre d'Éric Brouillard qui a parlé ce matin, un regard historique, parce que ce matin je crois que c'est M. Benamou qui parlait de ce qu'il y avait il y a 4000 ans, c'est assez intéressant de voir des points communs entre les premières ressources mathématiques des écoles de scribes, parce que c'était un basculement entre l'oral et l'écrit, et aujourd'hui les ressources dans ce basculement entre l'écrit et le numérique, hein, au niveau de la structure des ressources, de leur arborescence, de l'art des listes pourrait-on dire, il y a beaucoup de choses à apprendre aussi de ce regard rétrospectif. Donc un ensemble de questions qui sont éclairées par un ensemble de regards et l'émergence de nouveaux domaines comme l'architecture de l'information. Alors, je vais reprendre ce qui a été dit ce matin par Gérard Vidal sur les pépites d'or et les gisements. Il pointe là des questions tout à fait cruciales et l'indexation des ressources est une nécessité impérieuse. Mais il me semble qu'il faut enrichir aujourd'hui la métaphore. Il n'y a pas des pépites d'or et des gisements et des chercheurs d'or, mais le web tel qu'il se développe aujourd'hui, les communautés autour, font qu'il y a beaucoup de producteurs de pépites. Et que le problème, ce n'est pas seulement de chercher des pépites et des gisements, parce que les gisements bougent sans cesse, et il y a beaucoup de chercheurs et de producteurs. Et le problème n'est pas seulement donc d'indexer des ressources, mais de trouver les moyens d'un usage collectif. Et pour cela, il y a plusieurs façon de voir les choses. L'indexation, c'est une chose. L'annotation des ressources à la volée, c'est-à-dire être capable de trouver des moyens pour que chaque utilisateur de ressources dise en quoi elle lui a servi, comment elle pourrait être améliorée. Bon, c'est un moyen. Le projet européen Intergéo, qui s'est terminé l'année dernière, a aussi conçu au niveau européen le repérage des ressources avec le développement de communautés. Donc c'est plusieurs milliers de ressources en géométrie dynamique qui ont été mis sur un site et en relation avec des centaines de petites communautés d'enseignants, 10, 20, 30, parfois plus grosses, jusqu'à 100, qui ont utilisé ces ressources avec à chaque fois des petits questionnaires permettant soit d'améliorer la ressource, soit simplement de dire à quoi elle sert, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, en quoi c'était une ressource pépite, si on veut. Et c'est un site comme ça qui a vécu, qui s'est développé, et avec à chaque fois, vous voyez, un enrichissement à la fois du patrimoine commun et de la façon... et un enrichissement des outils permettant de pêcher dans ce patrimoine ce qui était utile pour son propre besoin. Donc ça, il me semble, sont des choses auxquelles il faut penser, c'est des choses à développer, ça demande des développements technologiques, et aussi des développements au sens de développement de communautés, comme Césamat ou comme d'autres. Qu'est-ce qui fait courir, qu'est-ce qui fait se développer des communautés? Ce sont des questions de recherche sans doute cruciales aujourd'hui, et qu'on va retrouver dans des dispositifs innovants. Et je voudrais insister, pour finir, sur le dispositif Performance, que vous connaissez sans doute, qui est une plateforme de mutualisation de parcours de formation qui a été développée par l'ASETIS puis par le ministère de l'Éducation nationale et qui est tout à fait puissant dans ses perspectives. C'est-à-dire qu'il s'agit pour des formateurs qui ont des expériences différentes de mutualiser leurs ressources et de produire à partir de leur expérience de formateur isolé, une ressource qui puisse servir à d'autres. Donc ça veut dire mettre un peu à distance son expérience personnelle, essayer de voir comment elle peut être enrichie. Enfin bon, bref, une façon de concevoir simultanément conception et usage, et de penser, et je reviens sur, c'est pas provoquer le changement, mais c'est s'appuyer sur la création, penser l'appropriation des ressources, et qui sont nombreuses et qui évoluent vite, dans l'idée de s'approprier, s'y mettre du sien. Ce qui est une idée qui n'est pas très nouvelle, mais qui aujourd'hui prend une actualité sans doute plus forte. Et le dispositif Performance a été suivi pendant 5 ans par une équipe de l'IFE. C'est rare d'avoir ce temps-là pour suivre des innovations. Et ça a permis de travailler les modèles de ressources, les modèles de parcours, des assistants méthodologiques permettant d'accompagner le travail du formateur et le travail du concepteur, du formateur et du stagiaire. Vous avez 3 minutes. Je finis. Finalement, les perspectives de recherche. Bon, nous voyons 3 grands axes. D'abord, repenser les ressources comme étant ce qui ressource le travail des professeurs, donc une vision très large sur les ressources. repenser les relations entre conception et usage, avec une frontière poreuse entre les deux, et l'idée de collectif hybride me semble promise à un bel avenir. C'est-à-dire, bon, c'est l'expérience d'équipes associées à l'IFE, par exemple, avec chercheurs-enseignants, dans performance, concepteurs-formateurs-stagiaires, dans les associations, des gens qui sont formateurs, pas formateurs, qui ont des compétences diverses. C'est certainement pour le développement des communautés quelque chose qui est porteur d'avenir. Je termine sur un petit point quand même, parce que ce séminaire est dédié à la recherche universitaire sur la pédagogie numérique. Il serait sans doute intéressant de s'intéresser aux recherches sur la pédagogie universitaire numérique. C'est-à-dire comment renouveler aussi les formes d'enseignement à l'université. C'est à l'université que sont formés les professeurs, donc c'est important. C'est à l'université qu'il y a un jeu particulier aussi entre recherche, formation, enseignement. Il y a donc là des ressources de réflexion fortes. Il y a un travail qui a été engagé dans le cadre d'une relation MINES-IFE avec un séminaire de pédagogie universitaire numérique chaque année. Et il me semble aussi que l'appel à projet IDEFI, qu'on est en train de, qui vient d'être publié par le ministère, est une occasion aussi pour repenser la pédagogie universitaire numérique et à travers elle de penser des formes générales de renouvellement de la formation à tout niveau de l'école. Merci.
Merci beaucoup. On va se proposer un temps d'interaction tout de suite, si vous le voulez bien. Est-ce que dans la salle, déjà des questions se profilent, à moins qu'ici, tel ou tel souhaite poser une question ? Monsieur Faure, une question. On vous demandera simplement de vous présenter sommairement quand vous prenez la parole, si vous voulez bien.
Voilà. Allez. Donc Pascal Faure, conseiller TIS à Nancy. Vous avez pris comme modèle ces amates, et donc une discipline. Et la question qu'on peut se poser, c'est ce qui est possible pour les mathématiques par rapport à une ressource, par rapport à une mutualisation, par rapport à des choses qui se sont faites et qui peuvent fonctionner bien dans certaines académies. Est-ce que c'est transférable ? Enfin, moi, je pense que ce n'est pas transférable dans d'autres disciplines. Dans des disciplines où les ressources sont basées sur des images, par exemple, on se retrouve sur la problématique qui était évoquée ce matin, des droits d'image, des droits d'auteur, et qui sont quand même très contraignantes et c'est peut-être pour ça aussi que ça n'existe pas dans les autres disciplines à la hauteur de ça existe en mathématiques.
Attendez, je vais dire seulement un petit mot. Le problème des droits d'auteur, on va le résoudre ça à un moment donné. De toute façon, on voit bien que ça génère des frais de droits d'auteur. On voit bien qu'un prof utilise 10 fois plus de droits d'auteur, en consomme 10 fois plus qu'avec l'ancien cours. Donc de toute façon, on va finir par faire un amendement d'exception pédagogique. Voilà, ça va se terminer comme ça. Et on passera un deal quand même avec les... On ne va pas ruiner les éditeurs, mais on trouvera un deal. C'est ça la solution, j'en vois pas d'autre. Si vous en avez une autre, vous me la donnez. Hein. Il n'y a pas eu de procès pour l'instant.
Non, mais la loi qui était prévue, qui était l'exception pédagogique dans la DATSI, n'a pas été aussi loin qu'on l'espérait, en tout cas. C'est bien clair.
Luc. Oui, mais il y a la question des droits d'auteur, il a été répondu, puis la question des spécificités disciplinaires. Il y a des choses qui existent dans d'autres disciplines, hein, comme Clionote ou Weblettre. Les formes qu'a pris Césamat, le rapide développement... Je pense qu'il y avait d'autres éléments que la discipline elle-même. C'est ce qui existait déjà au niveau des mathématiques comme structure de réflexion, d'animation. Et je pense que le rôle des IREM, où la seule discipline où se retrouvent régulièrement des enseignants de tous ordres pour travailler, il y a sans doute un terreau favorable pour ce travail collaboratif.
Une autre question ici devant, si vous voulez faire passer le micro. Voilà, veuillez vous présenter.
Léonie Couton, je travaille à la mission TIS de l'Académie de Paris. Je voulais savoir s'il y avait des études qui croisent les modèles pédagogiques de référence et les pratiques de collaboration, de mutualisation. Donc, par exemple, je pense à ces AMAT où on est plus sur un modèle pédagogique, effectivement, d'entraînement, ce genre de choses. Existe-t-il d'autres études ? Est-ce que ça a été pris en compte dans les recherches ? Parce qu'il me semble que c'est un élément qui peut être intéressant.
Tout ce que je peux dire, c'est un des résultats de la thèse qui va être soutenue, c'est un travail sur un manuel numérique en seconde. Et au départ, vous parlez de modèle pédagogique, et pas vraiment de modèle pédagogique. Hein. Et ce modèle s'est construit par aller-retour entre la conception des premières ressources, les effets qu'elles faisaient dans la classe, et la nécessité de développer l'activité des élèves. Et on a pu voir comme le travail collaboratif entre professeurs jouait un peu en rebond avec le travail collaboratif dans la classe, ce qui a interrogé les pratiques de départ, la conception de l'enseignement des mathématiques. Bon, mais je ne sais pas s'il existe d'autres travaux de ce type.
Je propose qu'Alain Chaptal, maintenant, prenne la parole sur un sujet voisin, mais vu sous un autre angle. Alors, Alain Chaptal est chercheur à Paris 13, et puis il travaille aussi à l'Université Paris 8 et à la MSH Paris Nord. On le connaît pour son travail, justement, en particulier sur les pays anglo-saxons. Tout son travail qui a été publié là-dessus est tout à fait passionnant sur mythes et réalités des pratiques enseignantes. Et je pense qu'il va continuer sur cette lignée-là. Les TIS sont-elles au service des enseignants? Les enseignants sont-ils au service du numérique? Toutes ces injonctions sont-elles aujourd'hui suivies des faits? Alain, on te laisse la parole et essayer de répondre à ces questions.
Bonjour. Effectivement, les organisateurs de cette manifestation m'ont demandé de répondre d'abord à une double question. Les TIS sont-elles au service des enseignants? Cela semblait devoir aller de soi. Ou l'inverse est-il vrai? Et j'ai donc sous-titré cette présentation en tablant sur des années d'injonction non suivies des faits, parce qu'effectivement, assez curieusement, depuis que les technologies éducatives existent, des experts ont sommé les enseignants ou les systèmes éducatifs de s'adapter aux technologies. Alors, c'est un vieux phénomène. Il était très bien analysé au moment du centenaire de l'École normale supérieure de Saint-Cloud par Henri Dieuzède, dans un texte qui est accessible en ligne et qui mérite d'ailleurs d'être revisité, qui mettait en évidence le fait que le discours de ces experts reposait en fait sur trois piliers. Le premier, c'est la ferveur évangélique du discours. Le second, c'est le rejet du système existant, avec lequel il faut impérativement rompre. Et bien sûr, le troisième pilier, c'était le salut par la machine, qui va complètement transformer l'éducation, ouvrir une ère nouvelle. Bon. Aux États-Unis, à peu près dans la même période, un chercheur très respecté, Larry Kuban, qu'Éric Bruyard citait aussi ce matin, disait à peu près la même chose avec sa théorie des cycles de la romance inconstante, où tout commence par un enthousiasme pour une technologie miracle, et puis finalement, au fil du temps, les usages n'étant pas à la hauteur, on finit par rendre responsable de l'échec relatif, les enseignants qui sont, comme chacun sait, d'indécrottables retardataires. Alors, un petit florilège de ces prophètes, celui qui est l'historique, Thomas Edison, cité par Dieuzède, qui a fourni en 1913 à la fois le modèle parfait de la citation du prophète et en même temps l'horizon auquel il faut se projeter. Il a dit, donc j'ai surligné en bleu les points saillants des différentes citations, j'en ai pas mal, pour vous faciliter la lecture. Il est désormais possible d'enseigner toutes les branches du savoir humain grâce au film. Dans 10 ans, notre système scolaire sera complètement changé. Et un peu plus de 80 ans après, au moment des autoroutes de l'information, à Paris d'ailleurs, Jim Clark, qui était le PDG de Netscape, reprenait exactement la même structure de citation en remplaçant naturellement le film par Internet. Bon. Alors, il y a même des prophètes extrêmement radicaux. Seymour Papert disait en 1984, « Il n'y aura plus d'école à l'avenir, l'ordinateur va faire exploser la structure de l'école telle que nous la connaissons parce qu'elle n'est pas adaptée à l'utilisation de l'ordinateur. » Bon. Pour l'humour, je dirais qu'il y a aussi des prophètes moins inspirés. Le même Papert, 3 ans après, avait un coup de blues sérieux. Et le regretté Steve Jobs, en 96, c'est-à-dire juste un an avant de reprendre les rênes d'Apple, disait des choses épouvantables, extrêmement réactionnaires. Je ne sais pas ce que c'est que ce petit engin, ce qui vient nous embêter, en disant les problèmes, la technologie ne peut pas résoudre les problèmes de l'éducation, contrairement à ce que j'ai cru et ce que j'ai favorisé. Les problèmes sont de nature sociopolitique, le problème c'est les syndicats. Et je vous invite vraiment à lire cette très longue et terrible interview au magazine Wired, c'est assez éclairant. C'est assez éclairant, mais ça montre aussi les caractéristiques de cette illusion récurrente, de ce qu'on appelle le techno-déterminisme, l'illusion que la technologie va, par sa seule présence, par son seul effet, déclencher le changement. et qui est un discours qui, en fait, valorise de ce point de vue-là la modernité technique, mais s'appuie tout à fait parallèlement sur un discours de modernité pédagogique, mettant en avant les approches socio-constructivistes et la version de grande diffusion que l'on qualifie généralement, en tout cas dans le monde anglo-saxon, de compétences du XXIe siècle. J'y reviendrai. Mais c'est vraiment des marchands d'illusions, comme la société Ampex dans cette publicité de 1969, prétendant qu'un magnétoscope, qui d'ailleurs ne fonctionnait pas sans l'aide d'un technicien, je l'ai connu ce magnétoscope, allait pouvoir remplacer les enseignants. Vous me direz, c'est de l'histoire ancienne, on peut rigoler, se rassurer, pas du tout. Actuellement aux États-Unis, dans l'Idaho, il y a un projet pour supprimer des crédits de personnel et les remplacer par des crédits pour des dispositifs de type e-learning. Un des plus beaux exemples récents de cette approche technodéterministe, c'est le lycée du futur de Philadelphie. 2006, une succession invraisemblable de visites d'officiels sur un projet, ne nous y trompez pas, extrêmement intelligent. Ce n'est pas un établissement vitrine que l'on va doter de moyens exceptionnels, c'est un projet extrêmement pensé et qui vise à définir le prototype d'un établissement ordinaire, du lycée du futur. Alors Microsoft a trempé dans cette affaire, mais positivement. Le projet est technologiquement très avancé, la technologie est accessible partout, à partir de tous les terminaux, les ressources sont uniquement numériques, et bien sûr, la pédagogie est une pédagogie de type socio-constructiviste, avec des groupes qui ne sont pas des groupes d'âge, des méthodes d'évaluation alternatives, etc. Et c'est une expérience qui va se fracasser sur la réalité, parce qu'elle se voulait le prototype. D'une part, les enseignants sont nommés suivant les procédures habituelles, puisque c'est un prototype. Et donc, ils sont nommés tardivement, sans nécessairement connaître le projet et a fortiori y adhérer. La technologie, au démarrage, connaît quelques difficultés. Cela arrive. Et évidemment, comme tout est numérique, il n'y a pas de plan B pour les enseignants. Et surtout, il y a les dispositions de la loi No Child Left Behind du gouvernement Bush, qui exigent de tester les compétences des élèves, suivant les critères traditionnels. Et là, catastrophe, vous avez les résultats des tests, ils étaient absolument effroyables en bas à gauche. Et donc, rétro-prédalage, crise de leadership, 5 proviseurs en 4 ans, et une vision généreuse qui finalement ne s'est pas concrétisée de ce point de vue-là. Donc on pourrait conclure à un échec. En même temps, c'est plus compliqué que ça. Cette vision ne s'est pas réalisée, mais l'établissement qui avait été implanté à dessein dans une des zones les plus difficiles d'Amérique, lorsque la première cohorte d'élèves ayant complètement fait leur scolarité dans ce lycée, a eu des résultats absolument formidables, puisque tous les élèves sont allés dans une forme ou une autre d'enseignement supérieur. Pas nécessairement les universités d'élite, l'enseignement supérieur américain très diversifié, mais c'est quand même un incroyable succès. Donc un bilan mitigé, mais l'idée que la technologie va induire des changements, eh bien cette idée-là ne s'est pas réalisée. Alors si on veut prendre un peu de hauteur par rapport à tout cela, il faut bien reconnaître qu'en matière d'éducation et de technologie éducative, on a depuis des décennies des débats qui ne sont pas tranchés. Les distinctions connaissances, compétences, alors depuis des décennies compétences dans le monde anglo-saxon, l'instruction directe, la découverte, ça nous renvoie à Rousseau, ça fait un paquet de décennies où on pourrait le formuler en termes d'enseignement traditionnel ou socio-constructiviste. La question est généralement posée de manière extrêmement artificielle, voire simpliste, et une solution excluant l'autre. C'est notamment le cas dans cette version de grande diffusion du constructivisme, les compétences du XXIe siècle, où on insiste sur la résolution de problèmes, apprendre à apprendre, la collaboration, la manifestation de l'esprit critique. Et face à cette situation, les enseignants ont en général une approche extrêmement pragmatique. Ils ne soucient pas d'adhérer à une philosophie de l'éducation ou à une autre. Ils utilisent très pragmatiquement les méthodes qui leur paraissent adaptées au moment précis où ils les emploient, à leur public et à ses caractéristiques particulières. Mais on a plein de questions en suspens. Alors à la fois par rapport à cette approche constructiviste, mais aussi par rapport à l'approche dite traditionnelle. Pour l'approche traditionnelle, c'est est-ce que les aspects trop théoriques, comment peuvent-ils se transférer au problème de la vie réelle, concrète, quelle est la place qui est faite à l'inventivité ou à la créativité, on l'a évoqué ce matin. En ce qui concerne le constructivisme, elles sont d'une autre nature. On oublie souvent de préciser quelle est l'autonomie nécessaire. quels sont les prérequis. On parle du d'approche constructiviste en général, de la maternelle à l'enseignement supérieur, ce n'est quand même pas la même chose. On parle de compétences du 21e siècle de manière très abstraite, curieusement. La résolution de problèmes, est-ce que c'est quelque chose qui existe en soi ou est-ce que c'est quelque chose qui est dépendant du contexte? Est-ce qu'on utilise les mêmes méthodes en histoire ou en algèbre? La réponse est clairement non. Quel est le socle d'expertise sur lequel on va pouvoir greffer ces stratégies de résolution de problèmes? Bon. Est-ce que c'est l'approche la plus rapide, la plus efficace? Comme cette présentation sera mise sur Internet, vous pourrez aller voir une étude assez revigorante de chercheurs d'Harvard très récents sur l'efficacité du cours magistral pour les maths, l'équivalent de notre quatrième. Mais il y a aussi d'autres questions, d'autres paradoxes, et notamment ceux qui étaient soulignés par Philippe Mérieux et Edgar Morin sur l'approche qui est volontiers skinnerienne, c'est l'expression est de moi, des compétences, cette atomisation des savoirs que dénonçait Philippe Mérieux, cet émiettement dont parle Morin qui lui paraît incompatible avec la compréhension de la complexité du monde dans lequel on vit. Mais ce n'est pas la seule étude qui le montre, et c'est quelque chose qu'on oublie largement. Par contre, l'efficacité des approches constructivistes à large échelle, ça me paraît beaucoup plus discutable, même si par ailleurs, je le soulignerai dans une autre diapo, il se passe des choses absolument formidables par des enseignants pionniers dans leur classe et qui, eux, peuvent avoir une efficacité qui crève le plafond et qui laisse des souvenirs très forts à leurs élèves ou à leurs étudiants. Mais là, il montre, il y a toute une analyse par rapport au test des résultats en maths avec classe témoin, classe test, suivant les procédures de recherche habituelles. Alors, ce que j'ai dit était très général. Revenons un peu sur les TIS. Donc, il y avait deux fonctions traditionnelles des TIS. Celle qui assignait les prophètes, on vient d'en parler, les TIS comme agent du changement, comme catalyseur, mais aussi les TIS comme enrichissement. Et c'est quelque chose qui a été connu aux États-Unis, un développement considérable dans les années 30 et qui a abouti à un succès extraordinaire. C'est probablement la preuve de l'efficacité la plus déterminante des aides visuelles dans la formation de toute l'industrie d'armement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avec le numérique apparaît une nouvelle forme et qui s'est notamment concrétisée aux États-Unis avec la loi de No Child Left Behind, l'accent mis sur les tests, c'est le numérique laisse des traces. Et ces traces sont exploitables et permettent de définir des profils. Alors, on a eu des exemples de ce que pouvaient être les profils positifs. Ça peut être aussi d'effroyables moyens de contrôle. Il faut en être conscient. Et c'est pas innocent de dessiner des profils d'apprenants. Et ça trouve des traductions assez concrètes. D'abord, dans le plan TIS de l'administration Obama, ce qui est à l'écran, c'est la première version du document qui avait été soumis à discussion. Vous voyez qu'on y parle de l'approche révolutionnaire de ces technologies pour l'éducation, de ces compétences du 21e siècle, de la nécessité de récolter le maximum de données sur les apprentissages, mais aussi on y dit que l'éducation est en retard par rapport aux autres secteurs et notamment par rapport à tout le secteur de l'entreprise dans l'utilisation de ces technologies. Mais j'ai souligné en rouge un mot qui est un mot nouveau et qui est là dans cet extrait de l'exposé des motifs scandé de manière importante, c'est le mot productivité. Or, pour les économistes, la productivité est une notion qui est toujours assez délicate à définir. Dans ce document, on ne définit pas la productivité éducative, mais on dit qu'elle va servir de guide pour réformer le système américain. Et ça a des conséquences très concrètes. Il y a un développement très fort aux États-Unis du e-learning. Alors, dans des formes mixtes, dans des formes d'enseignement d'options ou de cours de rattrapage, je vous ai mis à l'écran des indications sur les obligations de service des enseignants dans les deux écoles virtuelles développées par des États. La première, c'est la Floride. La deuxième, c'est la Caroline du Nord. La première, 220 000 inscriptions. La seconde, 70 000 inscriptions. Donc, on a des effets de masse. Vous voyez quelles sont les exigences en termes de disponibilité et de réaction, de réactivité d'enseignants qui sont par ailleurs évalués via divers dispositifs, surveillés et via également des questionnaires de satisfaction auprès de leurs clients. Et vous voyez qu'en Caroline du Nord, on enregistre systématiquement tous les échanges par téléphone, par système de messagerie instantanée, et on affiche à l'enseignant un système de clignotant, vert, tout va bien, orange, attention, et rouge, il est viré. Ils n'ont pas les garanties contractuelles de leurs homologues des lycées en dur. Donc on a là vraiment, finalement, non pas des enseignants au service des TIS, mais des enseignants asservis aux technologies. Venons-en à quelques leçons de pratique, je vais aller très vite. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des pionniers qui faisaient des choses absolument magnifiques, mais par contre, ce qu'il faut observer, c'est que ces injonctions au changement, depuis des années, depuis la centaine d'années qu'elles existent, n'ont jamais été suivies d'effet. Et on a la preuve à partir de quelques enquêtes, je donne juste un aperçu. En France, l'ADEP nous a montré que les enseignants français étaient très utilisateurs des technologies. C'est ce que j'ai mis en rose. L'ADEP distingue deux catégories d'enseignants, ceux qui sont les plus intensifs et les autres. Peu importe, les résultats convergent. Les enseignants français sont très utilisateurs des technologies pour leur usage personnel et à des fins professionnelles hors de la présence des élèves. En clair, pour la préparation de leurs cours. Bon. Par contre, quand c'est à des fins professionnelles en classe, que ce soit première catégorie pour sans manipulation des élèves, vous voyez que là, on est en jaune, dans cette zone-là, avec 25% qui disent une ou plusieurs fois par trimestre, ce qui est quand même très rare, et 40% qui disent jamais. Et si on dit avec manipulation des élèves, les cases jaunes du bas, vous voyez que c'est encore plus impressionnant. Il y a un autre éclairage sur les enseignants français qui a été fourni par la très intéressante étude du café pédagogique. Alors, les utilisateurs du café, Bruno le sait très bien, ce sont déjà des convaincus. Eh bien, ces convaincus ne sont pas si convaincus que ça. J'ai extrait cette diapo du bilan du café. Vous voyez, quand on leur demande si, à leur avis, un certain nombre de technologies qui sont emblématiques du web 2.0 ou des réseaux sociaux ont un impact négatif ou positif, ils sont près de 50%, entre 40 et 50% à dire négatif. En gros, un tiers dit aucun impact et seulement un quart, un cinquième le voit positivement. Alors, si on regarde à l'étranger, est-ce différent? Ces deux diapos sur la France nous montrent quand même que les enseignants utilisent les technologies qui leur rendent service et pas celles qu'on leur conseille d'utiliser nécessairement. L'Angleterre, une politique extrêmement dynamique du gouvernement travailliste depuis 1997 avec des moyens considérables consacrés aux TIS et un vrai développement des usages par les enseignants. Mais quels sont ces usages? Essentiellement ce qu'Éric Bruyard après appelait de la monstration pédagogique ce matin. C'est des usages en classe entière, c'est utilisé pour exposer les contenus de cours, pour faire le résumé, la révision du cours, pour faire des présentations. Et vous voyez, alors, en bleu foncé pour les écoles primaires, en bleu-gris pour les écoles secondaires, et l'autre c'est pour l'éducation spécialisée. C'est assez homogène, mais vous voyez que par contre, tout ce qui concerne l'activité autonome des élèves est beaucoup plus restreint. Et si l'on va voir aux États-Unis, une étude faite par le ministère fédéral, publiée en 2010, c'est un tableau complexe, mais j'ai tenu à vous donner la version originale, vous pourrez la consulter en ligne. Moi, j'ai souligné en rouge trois chiffres. La question qui est posée aux enseignants, c'est est-ce que vous demandez à vos élèves suffisamment fréquemment d'utiliser des blogs ou des wikis? 90% disent jamais ou rarement. Des réseaux sociaux, 92% disent jamais ou rarement, et d'utiliser des démonstrations, des simulations, 82% disent jamais ou rarement. Les mêmes enseignants disant eux-mêmes à 62% de jamais utiliser les blogs et wikis, et à 70% jamais utiliser les réseaux sociaux. Ça relativise beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux digital natives. L'échantillon, c'est un très grand nombre, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est une étude sur l'ensemble des États-Unis conduite par le ministère fédéral de l'éducation sur des données 2009, c'était publié en 2010, en mai 2010. Vous aurez toutes les références. En fait, ça confirme ce qui est aussi une vieille leçon que signalaient des chercheurs américains à qui on avait donné la lourde tâche en 2003 de faire le bilan de 20 ans de technologie éducative aux États-Unis. Et qui disait, la technologie en elle-même ne produit aucun changement, aucune amélioration fondamentale dans l'enseignement ou l'apprentissage. Les enseignants utilisent ces technologies et progressent pas à pas à partir de leurs pratiques existantes et des technologies qui leur sont accessibles. Et les chercheurs ajoutaient, ce sont ces progrès incrémentaux qui sont le vrai succès des technologies. Et j'en profite pour faire un écran publicitaire et vous renvoyer à un article assez long que j'ai publié dans une excellente revue en ligne, qui est la revue STICEF, et que j'ai intitulé sur ce thème « Les cahiers 24-32 ». On retrouve là aussi une leçon qui n'est pas une découverte, qui était une leçon déjà tirée par les chercheurs français critiques du courant de la sociologie des usages. Pierre Chambat disait, alors c'était écrit à propos du Minitel d'ailleurs, en 1994, la diffusion des technologies ne s'opère pas dans le vide social, elle interfère avec les pratiques existantes qu'elle prend en charge et réaménage. C'est ce que Josiane Jouette appelait une double composition. Et ça, c'est un phénomène absolument fondamental. Et si l'on veut progresser dans cette réflexion sur les TIS, il faut prendre en compte une double nécessité. D'une part, ça a été cité ce matin sur en parlant de cité numérique, il n'est plus possible pour un système scolaire de se couper fondamentalement de ce qui fait toute la vie de la nation, aussi bien dans sa dimension économique que sociale ou culturelle. La question de savoir s'il faut intégrer les TIS ne se pose pas. La question qui se pose, c'est comment les intégrer et comment favoriser leur développement. Et puis la deuxième nécessité, c'est de prendre en compte ce que disait un chercheur américain en 83, Richard Clark, dans un article de recherche qui est célébrissime. C'est ce que fait l'enseignant, l'acte d'enseignement qui influence, qui détermine l'apprentissage. Alors, écoutons les discours des prophètes, mais en faisant preuve de cet esprit critique qui nous recommande. Mais surtout, faisons confiance aux professionnels de l'éducation que sont les enseignants pour intégrer au mieux ces technologies. J'ai été frappé par ce que disait Jean-Michel Blanquer ce matin, il ne faut pas opposer innovation et tradition. Je crois que c'est profondément vrai. Ce n'est pas une alternative. On n'a pas d'un côté le changement et tout le changement, et de l'autre côté le statu quo. On a en fait un continuum d'innovation dans lequel les enseignants peuvent se situer et peuvent faire évoluer progressivement à leur rythme, sous leur contrôle, leur pratique. Merci.
Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre sur le même principe de l'interaction. Donc, j'ai vu qu'il y avait des réactions dans la salle, au moins spontanées. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Veut-il apporter un témoignage? Poser une question? Gabriel va intervenir. Gabriel, à toi la parole.
Non, je veux bien réagir en articulant les réactions que j'ai déjà borborismées au moment de l'exposé. Je ne sais pas si la discussion là peut se faire. J'ai chaque fois eu envie de dire, bon, bien sûr, il faut tenir compte, dit-on, des enseignants. Hélas, c'est évident que ça ne pourra pas se faire sans eux. Alors, on pourrait imaginer qu'on les recrute autrement, avec des gens que ça intéresse. Deux choses, que les mots m'intéressent, ce qui ne se fait pas, hein, et deuxièmement, qui s'intéressent aux TIS, pour pouvoir avoir des changements, si on pense que c'est une bonne chose. Dire simplement, mais non, c'est pas bon comme ça, les enseignants n'en veulent pas. C'est évidemment qu'ils n'en veulent pas. Ils n'ont jamais voulu de rien. Alors, ça dépend comment on juge les enseignants. Je suis un de ceux, avec TADI, avec d'autres. C'est vrai, je me suis mis en minorité par rapport à ce corps-là, à vouloir des choses que le corps ne voulait pas. Et on peut me dire, mais ça ne se diffuse pas ton truc du lycée expérimental. Évidemment, aucun ministre n'en a envie, le gros des enseignants ne veut pas. Me donner l'exemple de Césamat, tout à l'heure on a parlé de Césamat. 100 enseignants sur 5000 qui pratiquent un peu les choses et 30 000 profs de maths, 0,06% du corps enseignant, Césamat. On ne va pas quand même nous dire, c'est ça l'exemple aujourd'hui de l'avancée. Ces amas, ils font partie de ce petit groupe. On est, alors selon mon état de lucidité. On est une minorité, ou parfois je suis plus lucide, une petite minorité, et quand vraiment je suis déprimé, une infime minorité qui veulent bouger. En face, il y a une majorité, ou une grande majorité, ou une immense majorité qui ne veut pas bouger. Donc c'est vrai pour les TIS. Voilà, j'avais envie de dire, et dire comme ça que le corps enseignant, ça dépend, le jugement qu'on porte, globalement, sur la majorité du corps enseignant, comment il est recruté, pourquoi faire. Tadi a montré tout à l'heure l'enseignement mutuel, qui est pour moi un truc fantastique, hein, qui venait, mais ça venait des francs-maçons anglais. Ça a été combattu en France par l'Église, parce que si on donne du pouvoir à des élèves, l'autorité du maître, et ensuite l'autorité du curé et l'autorité de l'Église va s'effondrer. Donc on n'a jamais eu d'enseignement mutuel en France, ça ne s'est pas fait, on a des classes de niveau. Et j'ai un mal fou à expliquer aux amis africains que dans des classes de 100, il n'y a que l'enseignement mutuel qui pourrait fonctionner. Apprendre à lire, à écrire à 100 petits gosses, ils sont tous, c'est impossible. Et ben, ça ne. Le corps enseignant africain de l'Afrique que je connais, on a exporté notre système éducatif avec des classes de niveau, et donc le multigrade, c'est une horreur, comme tout enseignant français, l'instituteur au début, deux niveaux dans la même classe, c'est pas possible. Et voilà, le conservateur. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de réagir. Je dis tout ça par rapport, on est de l'autre côté. Je n'ai pas le même jugement sur le corps enseignant que je trouve conservateur et je trouve normal qu'il refuse les TIS.
Soyons toujours prudents. Hein. Soyons toujours prudents sur les généralisations sur le corps enseignant. Quand on le voit au quotidien, il n'est pas aussi... Les pannes ne sont pas toujours de la même ampleur que ceux qu'on rêve.
Alors, non mais, 15 secondes, non mais... C'est vrai. Cela dit, je vous rappelle ce tableau-là. Ça montre bien. Donc, ils étaient 48% en 2002, je vous le rappelle. Ils sont 95% à adhérer à la valeur ajoutée des TIS. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous parfaits, les enseignants. Dire qui est parfait ici dans cette salle, ou chez les députés, vous inquiétez pas. Bon, on ne revendique pas ça. Mais voilà, ils sont... C'est parti. C'est parti. Le vrai problème, vous le savez très bien, c'est quelque part la culture managériale de tous ces gens. Oui, là, on pourrait en parler. Mais eux, à la limite, le débat est ouvert avec eux.
Alors, il y a beaucoup de prises de parole. Alors, Luc et Alain, vous allez prendre la parole brièvement, si vous voulez bien. Luc, peut-être, ou Alain ?
Oui, Lequel ? Non, ça me rappelait la phrase et de puis... Brecht, hein, les enseignants ne sont pas comme on veut qu'ils soient, on peut dissoudre. Ou une remarque plus récente sur quand 2 millions de personnes vont voter, c'est jamais 4% du corps électoral. Donc, je pense que ces amas, pour moi, c'est quelque chose qui est révélateur. Et quand il y a des... Tu le sais quand même, je ne vais pas te l'apprendre. Quand il y a une minorité, on peut se dire que c'est une sorte de furoncle ou quelque chose qui traduit des mouvements profonds. Et de façon plus générale, je crois que si on veut changer des choses dans n'importe quelle institution, il faut commencer par penser que les choses n'évolueront que si les acteurs principaux s'engagent. Et peut-être que c'est l'institution ou les politiques ou les programmes, mais la plupart des études sur les enseignants montrent leur disponibilité à accueillir le changement dans le sens de l'inattendu qui vient des élèves. Et donc, c'est à nous à saisir pour que les technologies qui vont être développées ne soient pas des technologies qui leur soient données comme des tableaux blancs qui vont être donnés à toutes les classes, mais des technologies dans les applications mêmes qui résultent de leur créativité de concepteur.
Bon, alors, rapidement... Un point d'histoire, hein. L'enseignement mutuel des Lancastériens, ça a été arrêté partout dans le monde. Ça avait montré les limites d'une approche très industrialisée de l'éducation. Et d'ailleurs, même actuellement, où tout le monde cherche à faire des économies, parce que c'est un système remarquable pour un ministre de l'Éducation qui a des problèmes de budget, hein, on diminue le nombre de profs, on met des moniteurs, on met 100, plus de 100 élèves par classe. C'était ça, l'enseignement des Lancastériens. Donc, ça a été arrêté, ni revenons... N'y revenons pas. D'autre part, j'ai peut-être été peu clair, mais je ne pense pas un seul instant, je ne crois pas avoir dit, que les enseignants n'en veulent pas. J'ai simplement voulu montrer qu'il y avait un continuum d'innovation et que les enseignants, face à ça, au contraire, étaient utilisateurs, mais qu'ils étaient utilisateurs d'une façon extrêmement pragmatique. Il y avait, il y a de nombreuses années, une chercheuse américaine qui disait... Comment est-ce que les enseignants, dans un des rapports officiels du Congrès américain, comment est-ce que les enseignants intègrent les technologies comme les porcs-épics quand ils font l'amour, lentement et prudemment?
Voilà une leçon de vie. Madame, vous vouliez poser une question. Présentez-vous,
oui.
S'il vous plaît.
En tant qu'enseignante, d'abord, je tiens à dire que... lycée, SVT. En tant qu'enseignante, je tiens à dire que oui, comme l'a montré M. Fourgous, on est à peu près tous partants pour intégrer aujourd'hui le numérique dans nos pratiques. Par contre, nous faire confiance, nous dire oui, on a toute l'ampleur, le professionnalisme pour utiliser ces outils au bon moment. Alors là, excusez-moi, je doute, il aurait fallu qu'on me forme pour ça, qu'on me forme comme en Finlande à toutes les pratiques pédagogiques qui existent. Or, que ce soit les ex-UIFM ou ce qui a existé avant ou aujourd'hui, on n'a jamais formé les enseignants français à toutes les pédagogies qui existaient. Donc la liberté pédagogique aujourd'hui ne veut rien dire en France. De plus, donc on ne peut pas me faire confiance à moi pour dire devant tel élève, je vais utiliser telle pédagogie plutôt qu'une autre. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas me faire confiance à ce niveau-là. Autre chose, la Commission européenne montre que dans tous les pays européens, les enseignants ont tendance à utiliser encore le web 1.0. C'est-à-dire, on met nos documents sur Internet et basta, le gamin, il fait ce qu'il veut avec. Mais on ne crée pas du tout, on ne favorise pas du tout la créativité. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas compris qu'on était passé au web 2.0. Donc, faire confiance à des enseignants qui n'ont pas compris qu'on avait dépassé le stade 2000, c'est quand même problématique. Et enfin, je terminerai par, pareil, la Commission européenne et l'OCDE ont montré que les deux manières dont l'élève apprenait le mieux, à 80%, c'était pas le cours magistral, loin de là, c'était l'apprentissage informel et l'apprentissage par les pairs. Ce sont les deux moyens dont l'élève apprend, mémorise le plus et s'approprie le plus les connaissances. Et en aucun cas, il parle de l'apprentissage de l'enseignement magistral là-dedans.
Merci. Une réflexion, une remarque ? Oui ? Allez-y.
Je pense que vous avez statistiquement raison, mais probablement tort en même temps, parce qu'il y a des cours magistraux, ça dépend de qui les fait. Je vous marque pour la vie, je vous forme au-delà du simple moment d'échange. Je vais vous témoigner un seul cours magistral du professeur Cabrol.
À la pitié salpêtrière. Moi, ça m'a conduit toute ma vie puisque je suis devenu chirurgien cardiovasculaire. C'est lui qui m'a allumé, on peut dire, et je crois que les enseignants sont des éveilleurs. Et si, quelle que soit la technologie, le cours magistral, véritablement, ça peut être extraordinairement positif, et je crois que ceci a été dit par des études scientifiques également.
Une.
Oui. Voilà. Tout à fait d'accord.
Juste un mot à ce propos-là. Quand on écoute un cours magistral, on espère écouter quelqu'un en train de penser et d'avoir envie de penser avec. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'en arrêter là. Et le risque, c'est que si on ne s'en arrête là, dans le temps, il y avait les études, je rappelle, qui étaient justement la reprise. Or, c'est souvent ce temps d'études qui manque. On a le temps du cours, mais on n'a peut-être pas le temps de la reprise. Et c'est ça qu'il faut faire après.
Bon, très brièvement, je suis désolé, mais je suis en total désaccord avec vous. Vous citiez PISA. Bon, très bien, prenons PISA. Est-ce que les systèmes qui sont les systèmes leaders de PISA adhèrent à cette pédagogie des compétences du 21e siècle ? Pas du tout. Prenez le cas de Shanghai, la Corée, ou regardez la Finlande. L'enseignement en Finlande est extrêmement traditionnel et l'usage des technologies y est relativement modeste. Ça ne pose pas de problème. C'est un outil qui est intégré comme d'autres.
Oui, bonjour, Serge Parounot, je suis le directeur du site IUT en ligne, le campus numérique des IUT. Vous avez dit, monsieur, que l'idée que la technologie va induire des changements ne s'est pas réalisée. Je pense que, et vous l'aviez dit avant, vous avez peut-être oublié le mot « seul ». Voilà, donc je voulais préciser ça.
C'était dans la citation.
C'était dans la citation, mais vous l'avez repris après et vous ne l'aviez pas dit, ce n'est pas un reproche. Je pense qu'il faut... nous, on a à peu près 12 ans d'existence. Ça fait 12 ans qu'on va au contact des enseignants dans les IUT. Et la question, il y a une dizaine d'années, à laquelle je répondais le plus souvent, c'est est-ce que vous souhaitez remplacer les enseignants avec un ordinateur ? Et la réponse était toujours non. Évidemment, on ne souhaite pas remplacer les enseignants. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une méconnaissance de l'usage des ressources pédagogiques numériques correspondantes. Il y a des ressources pédagogiques numériques qui sont faites pour être traitées en présentiel, pour améliorer l'enseignement du professeur. Mais ça peut aussi servir après un cours, avant un cours. Et en particulier, moi j'aime bien la notion de autrement dit. C'est-à-dire que nous on a une base de ressources pédagogiques numériques qui approche maintenant les 1000 ressources, dont certaines font plus de 150 heures d'enseignement. Et il est évident qu'on ne cherche pas à remplacer le cours de l'enseignant. Par contre, le bon enseignant, quand il a une série de questions, et quelquefois en amphi, vous savez bien qu'on ne peut pas répondre à tout, il est capable de dire, écoutez, moi je vous ai apporté un point de vue, et peut-être que là, sur telle ressource, vous allez trouver des réponses à vos questions, peut-être que vous allez trouver un approfondissement, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va être dit autrement que par moi-même. Et ça, à mon avis, c'est un enrichissement. Et quand on voit, et à force d'aller dans les IUT et dialoguer avec les enseignants, on s'aperçoit que ces pratiques-là se développent. Et effectivement, là, il y a des changements qui se produisent. La preuve, et je reprends le discours de monsieur par rapport à tout à l'heure à Césamat, et de monsieur en bas aussi, où vous avez dit qu'il y avait une centaine de participants. Nous, on est à plus de 4500 enseignants inscrits. Et on a une technologie qui s'appelle le cartable virtuel qui permet de mettre à disposition des étudiants des ressources prescrites par les enseignants. Et je peux vous assurer que ça tourne énormément. Donc, c'est pas vrai, je crois, que la technologie ne va pas induire des changements. Il y a des changements, ça va lentement, ça fait 10 ans qu'on va sur le terrain. Et je crois que madame disait, on n'a pas été formé. Peut-être qu'il faudrait aller sur le terrain, dans les lycées, informer les enseignants, les former au numérique. Et augmenter le niveau de compétences numériques de tous les enseignants, ça me paraît être un objectif souhaitable.
Objectif souhaitable, mais pas sûr que ça suffise. Tu voulais réagir peut-être, Alain ?
Non, moi je suis assez d'accord. Je crois qu'un des grands potentiels du numérique, c'est justement de permettre une diversification d'approches. Et donc de ce point de vue-là, de pouvoir être un outil extrêmement efficace par rapport à des décrochages qui actuellement se produisent et sur lesquels les enseignants n'arrivent pas à revenir. Donc là, je suis assez d'accord avec vous. Simplement, le chiffre que vous citez pour Césamat, c'était le chiffre d'adhérents à l'opposition. Je pense que Sébastien H, qui est présent dans la salle, vous donnera des chiffres beaucoup plus précis. C'était 5 000 contributeurs, hein, c'est ça. 5 000 contributeurs. Hein.
Oui. Monsieur, vous vouliez intervenir.
Oui, Luc Saint-Dirion, inspecteur de l'éducation nationale. Donc moi, mon domaine, c'est l'enseignement primaire. Ce que je voulais dire, c'était sur les technologies en général. C'est difficile d'analyser, de voir l'impact des technologies si on n'est pas dans le détail. Et dans le détail, ce qu'on peut voir dans le domaine du premier degré, on a eu, il y a quelque temps encore, quand on visitait des classes, des classes qui étaient équipées, mais des enseignants qui n'utilisaient pas le matériel, c'est-à-dire que les ordinateurs étaient souvent éteints. Et du coup, on a parfois eu le sentiment que ces technologies qui étaient installées dans les classes n'étaient pas forcément déployées, utilisées de façon optimale. Ce qu'on peut constater ces dernières années, c'est avec le dernier plan École numérique rurale, où il y a eu une politique de généralisation d'équipements dans ces écoles par l'intermédiaire d'ordinateurs et également du tableau interactif. Ce qu'on peut constater, c'est que les enseignants se sont emparés de ces technologies et notamment du tableau interactif dès lors que c'était une pratique qui a pu s'intégrer assez facilement avec leurs habitudes de travail. C'est-à-dire que le tableau est venu au bon moment et avec des formations assez brèves, ce tableau est devenu incontournable dans les classes. Donc je trouve que c'est une leçon intéressante et d'ailleurs qu'on retrouve dans le programme Sankore où l'objectif c'est bien d'équiper un enseignant avec un tableau interactif. Et pour avoir participé à une mission à Madagascar il y a peu de temps, en quelques jours de formation, on a des enseignants avec des classes de 60 élèves, parfois 70 élèves, des enseignants qui ont intégré le tableau et qui commencent à l'utiliser dans leur pratique de classe, avec des formations brèves. Donc la technologie, certes, mais parfois, il suffit de donner une technologie adaptée pour qu'elle devienne utile et utilisée par l'enseignant.
Merci beaucoup, Alain.
Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et j'ai suffisamment eu l'occasion d'exprimer des critiques vis-à-vis des politiques du ministère pour être très à l'aise pour dire qu'il me semble que l'école numérique rurale, notamment parce que c'était un dispositif fondé sur le volontariat des enseignants, est une des approches les plus intéressantes pour l'ETIS et dont probablement il faudrait s'inspirer si on veut développer l'utilisation des technologies.
Jean-François Cerisier, un petit mot.
Non, juste faire état d'une recherche très modeste qui a été conduite il y a quelques mois dans le département des Pyrénées-Atlantiques sur les représentations que les professeurs des écoles bénéficiaires du plan ENR se font des transformations éventuelles de leurs pratiques pédagogiques. Alors, non, c'est pas du tout une observation des pratiques réelles, mais une analyse du discours des enseignants sur environ la moitié des enseignants concernés. Et l'hypothèse de cette recherche qui a été réalisée dans le cadre d'un master de recherche par un professeur des écoles de ce département, c'était que finalement, on n'allait pas constater beaucoup de choses nouvelles dans le discours des enseignants, en faisant l'hypothèse plus générale que l'ENR, et on pourrait dire la même chose des ENT d'ailleurs, est une forme très traditionnelle, ou est un moyen de projeter avec les technologies numériques une structure très traditionnelle, puisque c'est à la fois le tableau de texte numérique, c'est la monstration dont il a été question à deux reprises depuis ce matin, et puis le travail individuel avec les quelques ordinateurs, quelques netbooks qui font partie de l'équipement. Ce qu'il apparaît dans cette recherche qui ne vaut que ce qu'elle vaut, hein, sur cet échantillon pas du tout représentatif d'autre chose que ces établissements-là, c'est que très probablement les pratiques ont peu changé, et lorsqu'elles ont changé, alors encore une fois je dis ça mais il faut prendre avec prudence parce que c'est dans le discours, hein, elles ont changé lorsque les enseignants ont trouvé là les moyens de faire ce qu'ils souhaitaient faire. Qu'il n'y a eu aucune révolution, ce terme a été employé à plusieurs reprises depuis ce matin, presque aucun changement, si ce n'est l'instrumentation de pratiques qu'ils souhaitaient faire déjà et qu'ils trouvaient le moyen de faire plus facilement. Alors, moi, je observais deux choses par rapport à ce travail. C'est un, les technologies sont utilisées lorsqu'elles semblent utiles à ceux qui les utilisent. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense bien sûr que tout le monde porte sa part de responsabilité lorsque le taux, le niveau d'innovation n'est pas satisfaisant, si on pouvait avoir une échelle qui disait là c'est satisfaisant, là ça ne l'est pas, mais que la responsabilité ne peut pas porter seulement sur les enseignants ici, dès lors que l'on voit que la structure même du projet n'est pas porteuse d'innovation. Et il en va de même des ENT, je dis d'un mot, je ne vais pas monopoliser la parole, des ENT et de ces briques applicatives, en particulier le cahier de texte, qui sont une forme de reproduction, de projection dans le monde numérique, si je peux le dire avec ces mots-là un peu vagues, d'un fonctionnement bien antérieur. Peut-être que certains d'entre vous sont très impliqués dans ces choses-là, mais je trouve frappant de lire les circulaires qui ont été publiés s'agissant de la mise en œuvre du cahier de texte, lorsqu'on compare celle de, je crois, 1960, l'avant-dernière, ou quelque chose comme 61, et puis la dernière, celle de 2010, c'est le même texte. C'est le même texte. Il est un peu plus court maintenant, parce qu'il est plus rapide à lire, mais c'est le même texte. Lisez-les, c'est édifiant. Cette technologie, la conception, plutôt l'organisation, la structuration, n'est pas en elle-même, ne facilite pas en elle-même l'innovation.
Merci. Une question là, puis une question là-bas, en haut après, voilà.
Bonjour. Merci. Victor Luguer. J'enseigne notamment en master à Paris 8 et HEC la pénétration du numérique dans l'économie. Et bon, Jean-François Cerisier me coupe un peu l'herbe sous les pieds avec sa participation. En gros, on n'arrête pas de poser la question de la responsabilité des enseignants. Est-ce que c'est leur faute? Est-ce qu'ils sont assez bons? Est-ce qu'ils sont assez motivés? Est-ce qu'ils sont assez formés? Mais dans tous les autres secteurs de l'économie, prenons l'exemple du e-commerce il y a 10 ans ou de la pénétration du numérique dans le secteur de la musique il y a 5 ou 6 ans, on n'a jamais posé la question de la responsabilité des consommateurs dans l'adoption ou pas de nouvelles méthodes. La question qui a toujours été posée, c'est celle de l'offre. Est-ce que les offres ou pas sont de qualité. Aujourd'hui, on développe par exemple des offres de streaming dans la musique qui font que les modèles explosent et sont de plus en plus répandus. Et on n'a jamais parlé de la responsabilité des consommateurs. Alors pourquoi toujours poser la question de la responsabilité des enseignants? Qu'est-ce que vous, dans cette salle, à cette table, vous attendez notamment du secteur privé, parce que c'est de là aussi que peut venir l'innovation, que ce soit les éditeurs de logiciels ou les éditeurs scolaires, en termes de solutions. Et est-ce que ce n'est pas le jour où ces gens-là seront capables d'apporter des solutions qu'on verra des bons en avant dans l'adoption des TIS?
Quelqu'un veut répondre? Non. On lui donne la parole?
Peut-être tout simplement d'un mot, parce que les enseignants sont ce que Larry Kuban appelait les gatekeepers. C'est la personne clé par rapport à l'utilisation de ces technologies dans la classe. C'est tout.
On va se faire juste une interruption, ou plutôt un interlude. Monsieur Blanquer, responsable de la DGESCO, vient d'arriver, et nous allons lui donner la parole peut-être immédiatement, ça sera peut-être plus simple. Voilà, et on prendra la question de Monsieur Durper juste après, si vous voulez bien. Allez-y, bonjour.
Voilà, pupitre, merci. Merci, c'est un honneur et un plaisir d'accueillir donc le directeur général de l'enseignement scolaire. Merci Jean-Michel d'être là.
Bien, merci beaucoup à vous tous pour l'invitation et merci à la DIENA pour cette organisation. Je suis un peu navré d'arriver comme ça, je ne sais pas si c'est un cheveu sur la soupe, un éléphant dans un magasin de porcelaine ou un chien dans un jeu de quilles. Mais en tout cas, je voulais tout simplement être présent physiquement aujourd'hui pour souligner à quel point le ministère est en support des journées de travail que vous avez aujourd'hui et demain. Je l'ai dit ce matin dans la vidéo que vous avez vue, donc je n'ai pas besoin de répéter tout ce qui était dans cette vidéo. Mais je voulais vous dire à quel point cette réalité se traduit par un certain nombre de choses. D'abord, la présence de nombreuses personnes de la Maison Éducation Nationale au cours de ces deux journées, de l'Inspection Générale, de la DGESCO et d'autres secteurs. Et à quel point nous sommes attentifs aux différents travaux qui sont menés, aux impulsions politiques. Il y a là Jean-Michel Fourgous, dont les rapports sont évidemment des sources d'intérêt pour nous et de travail. L'ensemble des chercheurs qui sont présents, et là il y a une dimension scientifique, une dimension, je dirais, d'éclectisme scientifique dans les deux journées qui me paraît devoir être soulignée, parce que très souvent ces sujets-là sont vus de façon un petit peu fragmentée. Et là, le panel qui a pu être réuni aujourd'hui, aussi bien de ce côté-là que dans toute la salle, me paraît absolument remarquable, parce qu'il y a une complémentarité de vos propos, une complémentarité de vos approches dont nous devons tenir compte. Alors ça s'illustre de mille manières, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, ne serait-ce que parce que je crois que la table est en train d'aborder cette question-là. Je crois que vous êtes en train de parler de la condition enseignante et de l'acte d'enseigner en ce moment même. C'est un point absolument fondamental, parce que le sujet de l'interactivité numérique a évidemment un impact sur la condition enseignante et sur l'acte d'enseigner, et en même temps, d'une certaine façon, revitalise des choses qui sont éternelles dans l'acte d'enseigner. C'est ça qui me paraît important de souligner, parce que d'abord c'est une façon de rassurer tout le monde. On n'est pas en train de passer dans quelque chose de totalement inédit, et en même temps ça correspond à la réalité. Depuis toujours, l'acte de transmettre est un acte qui suppose une interactivité entre celui qui sait et celui qui apprend, et même si celui qui sait est en situation permanente d'apprendre, et si celui qui apprend sait déjà quelque chose. À partir de là, beaucoup de conséquences en ressortent. L'une d'entre elles, qui est aussi au cœur de vos travaux, vous en avez parlé ce matin, vous en parlez aussi cet après-midi, c'est le lien entre recherche et enseignement. Non seulement parce que la recherche a un impact direct sur l'enseignement, sur l'idée que nous nous faisons de l'impact du numérique sur l'enseignement. J'ai vu que, par exemple, le laboratoire Lutin, parmi d'autres, était représenté. Je me souviens de la visite que j'avais faite dans ce laboratoire et du caractère très prospectif de ce qui s'y passait. Ce que j'y avais vu est tout à fait significatif de ce que la recherche, sous un angle, il y en a bien d'autres, peut apporter pour nos réflexions. Mais plus encore, le rapport entre recherche et enseignement, c'est celui qui nous permet de nous convertir tous, professeurs et élèves, en chercheurs. Je sais que François Taddeï a parlé de ça, ou va parler de cela, a parlé de cela ce matin. Là aussi, c'est un point qui est abordé par plusieurs d'entre vous sous différents angles. Le numérique nous permet cette position d'action, mais aussi cette position qui permet de susciter la créativité, l'innovation, et d'une certaine façon une participation de chacun à son progrès intellectuel et au progrès intellectuel collectif. Donc ces dimensions-là n'épuisent pas le sujet. Il faut simplement que je voulais simplement témoigner du fait qu'elles sont prises en considération par la direction générale de l'enseignement scolaire et non pas, comme je vous le disais dans la vidéo ce matin, dans une éternelle querelle des anciens et des modernes, mais dans une tentative de conciliation des anciens et des modernes, ou plus exactement de dépassement de cela, parce qu'encore une fois, le numérique est au service de l'ensemble de l'activité de l'éducation nationale. Ce n'est pas une bulle dans la vie pédagogique et scolaire, mais c'est au contraire un élément de rayonnement et un élément d'entraînement. C'est un sujet autour duquel on peut parler des heures. Je suis déjà assez gêné de vous avoir interrompu en plein élan collectif, mais en tout cas très heureux de pouvoir être un peu parmi les vôtres aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Blanquer. On va redonner la parole tout de suite à Monsieur Durper, qui souhaitait intervenir dans notre échange sur les enseignants et le numérique. Monsieur Durper.
Exercice complexe après le directeur général en ce moment scolaire, mais il a terminé sur numérique, élément de rayonnement. Alors, je peux peut-être enchaîner, puisque je voulais enchaîner sur le propos de Luc Saint-Dirian, repris par Alain Chaptal et Jean-François Cerisier, puisqu'ils ont évoqué tous le plan école numérique rurale, et pour avoir été le pilote du rapport de l'inspection générale sur ce sujet, je peux attester qu'effectivement, en vraie grandeur, puisque ce plan concerne quand même 6700 écoles, c'est quand même vraiment quelque chose de très important, eh bien, il donne un visage très positif de l'école aujourd'hui, et peut-être grâce à l'école numérique rurale. Et peut-être que justement, c'est le numérique qui a fait émerger cette dynamique de ces petites écoles rurales. Parce qu'il s'agissait bien... Alors, je ne sais pas pourquoi ça a vraiment marché. Tous les ingrédients étaient peut-être là. Alain Chaptal a souligné qu'il y avait un côté volontaire. Donc, c'est certainement un élément très, très positif à retenir. Les équipes étaient volontaires. Il y a sûrement aussi le fait que le modèle de l'école rurale coïncidait avec les outils qui ont été donnés. Parce que non seulement on a vu le tableau numérique interactif en action, mais en même temps, les classes mobiles et les maîtres étaient tout à fait capables de, généralement, de mobiliser l'ensemble des outils au service des élèves. Et je vous assure qu'avoir fait cette tournée de quelques 35 départements avec mes collègues, tous les collègues du groupe de lancement primaire ont contribué, mais c'était vraiment très revigorant. Et ça donnait une idée de l'enseignant qui n'était pas réticent ou allergique au TIS, comme on a pu l'exprimer tout à l'heure, mais tout à fait investi, quel que soit l'âge d'ailleurs de ces enseignants. Moi, je n'ai retiré vraiment une image très positive du système éducatif à ce moment-là sur 6700 écoles. Il y avait un point qui était un point de difficulté qu'il faut traiter, vraiment sérieux, c'est la question des ressources pédagogiques. Mais j'allais dire, même sans ce point-là, on avait une image très dynamique. Il y a aussi un élément qui a été déterminant, c'est qu'on a pu disposer d'un réseau d'aide de proximité pour ces petites écoles. On l'a dit aussi, et Jean-François l'a souligné, ce réseau des ATIF, François Villemontex a beaucoup travaillé là-dessus, a été très déterminant à la réussite, parce qu'ils ont su faire les petits bricolages indispensables pour que les choses marchent, pour qu'on s'adapte. Moi, j'en suis ressorti avec une idée vraiment très positive. Je voulais en rendre témoignage. Ce rapport est, je crois, utile de ce point de vue-là. Et puis, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger quand on parle des TIS. Les problématiques sont différentes selon les styles d'enseignement. Dans le premier degré, il y a des types de classes qui sont différents. Mais il y a le premier degré et le second degré. Et dans le second degré aujourd'hui, je crois qu'il faudrait s'y arrêter. Je pense qu'une des difficultés, c'est l'héritage historique lié aux disciplines scolaires. Alors, il ne faut pas réallumer la guerre des disciplines, mais je crois qu'une des difficultés, c'est quand même de prendre en compte que dans le collège, il y a une structuration par les disciplines qui fait que l'introduction qui pèserait sur une organisation plus générale, on a parlé de l'effet établissement ce matin, eh bien, il est encore difficile à faire. Et enfin, dernier élément. Moi, je considère, et encore plus depuis cette étude que j'ai faite sur Ordi Collège avec mes collègues, je pense qu'il y a des outils qui arrivent bien, mais qu'il faudrait s'en saisir avec leur caractère innovant. La tablette, je suis vraiment persuadé que généraliser l'outil d'une tablette, ici en l'occurrence des iPads dans le département de la Corrèze, c'est quelque chose qui mérite une attention des chercheurs très, très, très vive et rapidement. Parce que là, c'est un équipement qui est d'une grande simplicité d'usage et il faut, j'allais dire, un petit peu actualiser le propre logiciel pour voir comment ça peut bouger le système éducatif. Donc, Je résume, ne pas mélanger premier degré et puis second degré. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais il y a aussi des dynamiques à l'œuvre dans le second degré.
On va prendre une dernière question, si vous voulez bien, qui est là au milieu. Ça va être la dernière question, puis on va réenchaîner sur les autres interventions, si vous le voulez bien.
Oui, bonjour, Sébastien H. Césamat, dont on a un petit peu parlé. Juste pour dire qu'il y a quand même une note d'espoir. Par exemple, au niveau de l'association, on a créé une plateforme pour les élèves. Il y a 1 million d'élèves inscrits actuellement. On n'est pas dans des choses qui sont de petit niveau. Et c'est les élèves qui eux-mêmes, ont accès à l'ordinateur et font des activités sur l'ordinateur. Donc, je pense que c'est important. Et à ce niveau-là, je voudrais, moi, délivrer un message. Alors, je ne sais pas si c'est au nom des enseignants, mais en tout cas, au nom de l'association. En termes de ressources pédagogiques, je pense qu'il faut être toujours très, très modeste. Et j'ai entendu parler ce matin de critiques constructives. Je pense qu'on a énormément besoin de critiques constructives. Je m'adresse au corps d'inspection, je m'adresse aux chercheurs. Nous, en tant qu'association, on a besoin de ces retours-là. Ce qu'on fait, c'est sans doute pas parfait. Ce que font les enseignants, c'est pas parfait. C'est perfectible. Ce mouvement qui rend les ressources meilleures est un mouvement important. Et je pense que là aussi, ça fait partie de notre métier que d'améliorer sans cesse nos ressources. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Fourgous, un petit mot.
Alors, puisque là, on est dans la pédagogie collaborative, hein, donc on échange, c'est pas magistral. Bon, moi, j'ai une question à poser à la salle ou à certains. Il y a deux questions qu'on se pose. Bon, les tablettes, c'est bien, bien sûr, M. Durper, bien entendu, mais ça coûte 400 à 500 euros pièce en Wi-Fi. Hein. Donc demain, on en prend 12 millions. Vous imaginez, ça fait quand même 4,8 milliards tout ça. Donc voilà, c'est pas le moment, on le sait, et dans tous les pays, personne, aucun pays au monde, de toute façon, à 100% de TNI dans les classes ou 100% de tablettes, ça va de soi. Mais voilà, le modèle économique, on réfléchit là-dessus. Donc c'est quoi le modèle économique pour financer ça? Parce qu'on voit bien que dans l'année, dans les 12 mois, avec l'évolution, bon, on est face à ce problème. Même les classes mobiles, aujourd'hui, ça va être ingardisé par l'arrivée des tablettes. Bon. Est-ce que quelqu'un a une idée sur le modèle économique de cela pour financer? Est-ce qu'une partie des parents doit leur demander, je ne sais pas, au privé, j'en sais rien, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Et deuxièmement, sur l'évolution des enseignants, des choses qui ont été évoquées, moi je suis maire d'Élancourt, j'ai 150 classes en primaire, 150 classes en TNI, 150 classes formées. Même quand ils veulent plus partir, d'ailleurs, l'éducation nationale est quasiment prête à me faire un procès parce que je bloque le turnover. Bon, mais donc ça dépend. Là, il faut une volonté. Il faut un patron. Il faut une volonté. Il faut la volonté. Voilà, c'est le management. Ça, c'est la culture managériale. Quand il y a une culture managériale, ça marche. Donc voilà, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut faire peut-être, Monsieur Durper ou d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au niveau national, voilà, ça on aille plus vite parce qu'on a les moyens, on a aujourd'hui une certaine maîtrise quand même de l'ensemble, à part les éditeurs qui traînent un peu, mais bon, on sent qu'il y a une marge d'accélération. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour accélérer cela. Voilà, enfin, s'il y en a qui ont des... Allez-y. Hein.
Bien, en tout cas, la mission Fourgous peut accueillir tout à fait vos réflexions, n'hésitez pas à le leur transmettre. Merci beaucoup. On va demander maintenant, on va basculer maintenant, on a parlé beaucoup des enseignants, maintenant on va parler aussi des élèves et des réseaux sociaux, parce que c'est aussi l'autre versant du problème. On évoquait une école fermée, une école ouverte. Nous avons devant nous, chaque jour dans les classes, des jeunes qui utilisent ces technologies au quotidien. Est-ce que ça bouscule l'école? Et si ça bouscule l'école, comment? Dans quelles conditions? Jean-François Cerisier, maître de conférence à l'Université de Poitiers, à toi la parole.
Bien, bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité à intervenir. Moi, je vais essayer de faire à la fois le bon et le mauvais élève. Le bon élève essaie de répondre à la commande qui lui a été passée, et le mauvais élève fait ce qu'il peut, en fait. Et donc, très concrètement, le titre de la session, qui ne correspond pas exactement quand même, hein, il n'y a pas eu que des bons élèves, hein, ce qui a été dit par mes prédécesseurs, je le lis, vous l'avez ici à l'écran, élèves en réseau, professeurs réseau, avec en plus des choix de formes qui m'ont plongé dans un abîme de perplexité. Pourquoi est-ce qu'il y avait un tiré, pourquoi est-ce qu'il y avait des guillemets d'un côté, pas de l'autre, enfin bon, tout ça est compliqué. Et le bon élève va essayer de traiter le premier terme du titre, élève en réseau, et beaucoup moins professeur en réseau. Et puis ce que je vous propose, c'est vraiment très modeste, c'est d'essayer de me faire en quelque sorte le porte-parole, enfin le porte-parole, ils m'ont rien demandé en fait, hein, des adolescents, collégiens et lycéens, pour rendre compte de leur point de vue sur les réseaux sociaux, parce que finalement c'est ce qui est derrière cette terminologie d'élève en réseau, et puis de façon un petit peu plus générale sur les technologies numériques, l'usage qu'ils en font, les raisons surtout pour lesquelles ils les utilisent. et l'opinion qu'ils ont, les représentations qu'ils ont de la place que ces technologies peuvent, doivent, ont à l'intérieur du système éducatif. Quelques propos préalables, rapidement, irrationaliser des postures entre attentes utopiques et craintes phobiques. J'étais un peu fort quand j'ai écrit ça hier soir. Ce que je veux dire, c'est tout simple, c'est que on a entendu à plusieurs reprises qu'il existait des cycles modélisés de différentes façons dans les représentations que les institutions et les individus se font des technologies et des technologies à l'école. On a entendu parler des cycles conduisant parfois à la désillusion, Larry Kuban, enfin, et d'autres qui ont été présentés depuis ce matin. Mais je pense d'une autre façon, ça c'est diachronique, hein, qu'on pourrait avoir une observation synchronique et voir qu'aujourd'hui, tous ces points de vue existent. On rencontre, et peut-être parmi nous, de fervents militants pour le développement sans limite des usages des technologies à l'école, et des gens plus réticents, voire certains parmi nous qui voient d'abord les dangers représentés par ces technologies et pour le système éducatif peut-être et pour ses élèves d'autre part. Et les réseaux sociaux constituent un bon point d'entrée pour ça. D'abord parce que c'est d'actualité. Ça ne l'était pas hier, ça ne sera sans doute pas demain, mais ça l'est encore aujourd'hui, donc parlons-en. Et parce que c'est une façon de dévider un peu la pelote et de voir ce qui se cache derrière les réseaux sociaux. En termes de représentation notamment, vous le savez bien, les réseaux sociaux font une entrée timide dans des pratiques pédagogiques dont certaines sont valorisées. On peut, je ne vais pas le faire, citer des enseignants fortement médiatisés pour les pratiques pédagogiques qu'ils font et qui recourent à Facebook, à Twitter. Ce sont des niches d'utilisation, mais on sent bien là qu'il y a un souhait de valorisation de ces pratiques. Dans le même temps, le discours ambiant est assez fréquemment craintif ou négatif sur ces réseaux sociaux, la peur que les élèves s'y perdent, pas seulement les élèves, au point où vous le savez que pour trancher cette question, il y a plusieurs stratégies possibles. Sans la critiquer au sens négatif du tout, il y a celle du Missouri qui les interdit purement et simplement pour les élèves à l'école. Mais il y en a d'autres, et j'essaierai d'y revenir. Deuxième point en préambule, en préalable, c'est... je suis toujours un peu gêné par des approches qui, bon... sont de moins en moins souvent annoncées, à vrai dire, mais qui considéreraient ou qui considèrent que la culture numérique est celle des jeunes. Alors, on l'entend quand même encore assez, les compétences des jeunes, même si elles sont démenties par les recherches, démenties par les chercheurs et par les praticiens. Les jeunes ne sont pas si compétents que cela dans l'usage des technologies. Éric Brouillard évoquait fortement cette question ce matin. N'empêche que, dans le discours, dans les représentations sociales, le discours ambiant, on associe assez vite culture numérique et culture des jeunes. Donc, pas la nôtre. Qui sommes là. D'ailleurs, j'ai fait un petit décompte, je m'amuse souvent à faire ça, quand on est sur l'estrade et qu'on a le public en face, de faire des comptes, de faire des catégories, de faire un peu de sociométrie de base. Alors j'ai d'abord compté les gens que je connaissais pour mesurer le recoupement de mon réseau social par rapport à cette assemblée. Enfin, je ne vous donne pas les résultats, c'est assez décevant pour moi. mais j'ai aussi compté ce que je voyais, vos comportements. Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce qu'il est ouvert? Bon, pas qu'est-ce que vous faites, hein, il faut être de l'autre côté de la salle. Quels sont ceux qui ont des tablettes? Il y en a, c'est moins facile parce qu'on peut confondre tablettes avec d'autres documents. Quels sont ceux qui ont des smartphones? Ceux-là sont nombreux et je pense qu'ils prennent des notes sur leur smartphone de ce qui est dit ici, à moins qu'ils entretiennent leurs réseaux sociaux. Enfin bon, toutes les hypothèses sont de bonnes hypothèses, elles demandent quand même à être explorées et vérifiées de plus près. Bref, même si nous sommes très équipés, nous qui sommes ici, ordinairement, habituellement, on ne considère pas que nous représentons la culture numérique parce que nous ne sommes pas les jeunes de la culture numérique. Moi, je souhaite m'inscrire en faux dans cette vision des choses. La culture numérique n'est rien d'autre, comme l'a particulièrement bien exprimé un sociologue de la culture français, Olivier Donat. La culture à l'ère du numérique, ni plus ni moins. Donc notre culture est faite de notre patrimoine culturel, de nos comportements, de nos valeurs, à l'ère du numérique, alors que le numérique est présent dans, directement ou indirectement, dans la plupart des actes de la plupart des personnes. Et je tiens beaucoup à cette idée des usages indirects et du rapport indirect à la culture numérique. Et bon, j'ai longtemps réfléchi pour trouver un exemple probant, je ne sais pas s'il l'est, mais je le trouve, je l'utilise de temps à autre. Lorsque vous lisez un livre imprimé, vous êtes bien sûr complètement immergé dans la culture numérique. Tout autant que lorsque vous lisez ce livre sur votre tablette, quelle qu'en soit la marque. Pourquoi ? Parce que dès le début de la chaîne éditoriale, l'auteur a très probablement, c'est pas une certitude, très probablement rédigé son texte avec un traitement de texte. Et que toute la chaîne éditoriale, à un moment ou un autre, ou plutôt à presque toutes les étapes, voire à toutes les étapes, a recouru à des technologies numériques qui ont coloré chacun des actes qui a été réalisé. Et si on reprend de nouveau l'exemple de l'auteur, l'auteur n'a pas écrit de la même façon avec son traitement de texte que s'il l'avait fait de façon manuscrite, comme il le faisait auparavant. Donc la culture numérique, elle concerne tout le monde, y compris ceux qui n'utilisent pas ou qui utilisent peu directement les technologies numériques. J'en ai un deuxième exemple rapidement qui m'a été donné par une étudiante et jeune collègue avec laquelle j'ai réalisé l'enquête dont je vais faire part juste après sur la perception des technologies numériques par les jeunes. Elle est indienne et nous avons fait une enquête franco-indienne, enfin pour partie réalisée en France et pour partie réalisée en Inde, pour des raisons totalement circonstancielles. Et elle prenait l'exemple d'une femme qu'elle avait rencontrée dans un village d'une région d'Inde que j'aime beaucoup pour d'autres raisons, c'est-à-dire le nord, la partie himalayenne, le Ladakh. Elle parlait d'une vieille dame qui devait se rendre à New Delhi et qui devait prendre un billet de train. Et en Inde, on ne peut pas prendre un billet de train autrement que par voie électronique. Cette dame n'avait sans doute jamais utilisé Internet. Elle n'a pas fait la réservation elle-même, bien sûr. Mais son comportement de voyageuse avec le train indien s'inscrit totalement dans la culture numérique, c'est-à-dire la culture à l'ère du numérique, même pour elle. Voilà, donc c'est avec cette acception de la culture numérique-là, donc la culture à l'ère du numérique, que je vais explorer un peu rapidement les représentations des jeunes. Ah oui, puis dernier point... On parle tous, et je le fais aussi, c'est une facilité grave de réseau numérique en confondant le tout et la partie, parce que bien évidemment le réseau numérique c'est pas...
Alors je vous rappelle que il y a eu plusieurs questions sur en fait en gros comment on acquiert une culture numérique. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit l'éducation nationale qui vous envoie au cours, est-ce qu'il faut attendre, voilà. Il y a aussi ça, mais continuez, mais c'est des questions qui sont dans la salle, quoi.
Je veux bien vous donner mon avis sur la question, mais après. Donc on confond le réseau social lui-même, ce qui est important, avec les différents artefacts, différents outils que nous utilisons pour construire et évoluer dans nos propres réseaux sociaux. Donc je disais que j'avais fait de la sociométrie de base tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai fait un travail sur la présence de mon réseau social ici. Et j'en profite pour dire aux organisateurs que j'ai repéré des gens qui sont ici et qui ne sont pas dans la liste, donc ça rend le travail de sociométrie plus difficile pour quand on fait des croix dans les cases. Mais que bien évidemment, le réseau social dont je parle est fait des gens que je connais, c'est-à-dire il est fait des liens que j'ai avec eux, et ces liens se sont établis dans les interactions que j'ai eues avec eux. Et que finalement, Facebook, Twitter et autres, ceux d'hier et ceux de demain que j'ignore, ne sont là que pour instrumenter ces réseaux sociaux, mais en les instrumentant, ils les transforment, et c'est bien là que c'est intéressant de procéder à quelques observations. Alors, ce que je vais dire maintenant est donc basé sur un certain nombre de travaux de terrain, et en particulier une enquête réalisée, je viens de le dire, en France et en Inde. Je vous dirai quelques mots peut-être tout à l'heure si j'ai le temps sur la différence des résultats entre les deux, mais je vais surtout axer ma présentation sur les ressemblances de ce qui a été observé dans les deux cas. Donc le travail a été fait sous forme d'une enquête administrée en ligne à assez grande échelle, environ 1000 adolescents, et suivi d'entretien d'explicitation et d'entretien approfondi avec une partie d'entre eux. Alors, beaucoup des résultats que l'on a obtenus ne font que confirmer ou sont convergents avec beaucoup d'autres travaux, donc pas beaucoup d'originalité. Je vais essayer juste d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais de les mettre en ordre. Donc, première chose, tous ces jeunes, dans les deux cas, un des France, sont très très équipés. Bon, ça, on le sait, bien sûr. ce qui est d'une certaine façon nouveau à l'échelle, en tout cas à l'échelle qui nous concerne, à l'échelle, il a été dit, des 20 dernières années à plusieurs reprises depuis ce matin, il y a une différence, hein, c'est que les jeunes, les adolescents, donc moi je m'intéresse aux adolescents, donc en gros, donc collège-lycée, je vous l'ai dit, les adolescents, ils ont rencontré, tous ont rencontré ces technologies à l'extérieur de l'école. Ça fait une sacrée différence avec ce qui se passait il y a 20 ans, où presque tout le monde, nous compris peut-être, avons rencontré les technologies à l'intérieur de l'école. Et ça colore de façon considérable le rapport que les jeunes ont avec les technologies quand ils sont élèves, c'est-à-dire le rapport qu'ils ont avec les technologies à l'école. Bon, 3, vous voyez, j'ai numéroté les points que je veux évoquer. 3, les adolescents sont compétents, mais, alors mais c'est assez intéressant, je n'ai pas le temps de développer, ils n'ont pas certaines des compétences dont on pense qu'ils devraient être dotés. Alors l'outil normatif de mesure pourrait être pour cela le B2I, et ses différentes variantes. Donc là, des études, enfin, vous les connaissez tous, hein, montrent qu'il y a dans le B2I des compétences que je qualifie, que nous avons qualifiées avec Bruno dans un travail de recherche sur le déploiement du B2I d'orpheline, c'est-à-dire des compétences qui sont rarement maîtrisées par les élèves. Malheureusement, ce sont des compétences qui ont l'air d'être sacrément importantes dans l'usage qu'on fait des technologies et dans la vie tout court à l'ère du numérique, comme par exemple les compétences qui sont liées à l'idée ou à tout ce qui concerne le traitement des données numériques, et en particulier lorsque cela prend la forme de simulation. Alors, c'est quand même un peu embêtant de voir que ces compétences ne sont pas maîtrisées, qu'elles sont pourtant nécessaires dans beaucoup des actes de la vie aujourd'hui, et que l'école ne parvient pas, sur cette compétence-là par exemple et quelques autres, à combler des inégalités sociales. Pourquoi je dis ça? Parce que ces compétences ne s'acquièrent pas par l'expérience personnelle seulement, à moins de disposer d'un environnement social et surtout familial tout à fait privilégié. Donc on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse, avoir le souhait, formuler le souhait, que dans une stratégie équitable, l'école réussisse à gommer, à atténuer en tout cas ces différences, et ça n'est pas le cas. Par ailleurs, ou inversement, il y a des compétences qui ne sont pas dans le référentiel et que les élèves maîtrisent bien. Et je pense que ça aussi, c'est très important de le dire. Et parlant de ça, pour le dire d'une formule, pour aller vite, puisque ce n'est pas le sujet, le B2I est aujourd'hui, et peut-être l'était-il à l'origine, que ceux qui en sont les concepteurs et qui sont peut-être là, il y en a, je le sais, je les vois, me pardonnent de dire ça, c'est un référentiel de vieux pour des jeunes. Et il y a des compétences qui sont peu valorisées et un peu suspectes, comme par exemple la compétence à gérer son temps dans de nouvelles façons de gérer son temps, c'est-à-dire le temps court plus que le temps long. Ce qu'on appelle parfois le multitâche, qui ne veut rien dire en vérité, puisqu'on n'est pas véritablement multitâche, en tout cas, je ne sais pas si vous l'êtes, moi je ne le suis pas. Mais en tout cas, la capacité, la compétence à organiser son temps avec des sessions d'attention très courtes. Et ça, c'est une compétence tout à fait indispensable, et elle n'est pas dans le référentiel. En revanche, les élèves, on le sait, quand on est dans les classes, parfois, se débrouillent bien avec cette question-là, pas toujours, hein, mais parfois oui. Et peut-être que vous aussi, puisque je ne sais pas ce que vous faites en tâche cachée derrière vos différents écrans. 5, les technologies qui intéressent les jeunes ont des caractéristiques tout à fait particulières, simples. Elles sont, les technologies au sens des artefacts, elles sont personnelles, mobiles et en réseau. Bon, je crois que l'analyse est simple, et que l'objet technologique ou l'artefact auquel correspond ces trois caractéristiques, c'est le smartphone. Et d'ailleurs, quand on regarde les marchés, qui achète aujourd'hui, enfin, à quel segment du marché est en plus forte progression, eh bien, ce sont les adolescents sur les smartphones. Dernier point, qui est l'avant-dernier, en fait, parce que j'ai lu à l'envers, j'ai pas respecté mes numéros, et qui me semble le plus important, c'est le sens que les jeunes attribuent à l'usage qu'ils font des technologies. Alors là, c'est assez complexe, mais je retiens là ce qui leur semble le plus important et qui du coup me semble aussi le plus important. Pour eux, les technologies numériques sont celles, je vais le lire comme je l'ai écrit et je m'en expliquer ensuite, sont celles de la reconquête d'espace-temps privatif, et j'ajoute, dont ils sont en général privés. On le sait, ceux qui ont pu observer des jeunes dans toutes sortes de situations, en particulier familiales, le savent. Les jeunes et les moins jeunes se trouvent derrière ou devant un écran, plutôt devant que derrière, pour communiquer avec des gens qui ne sont pas là. C'est-à-dire pour échanger au sein de leur réseau social ou d'un des sous-ensembles de leur réseau social. Ce que l'on peut faire très bien en allant faire du vélo sur la place du village, ou en allant jouer à ce que vous voulez, ou discuter avec ses amis, au pied de l'immeuble. Sauf que les espaces physiques et les temps physiques disponibles pour les jeunes se sont réduits et ont presque disparu en quelques dizaines d'années. Pour des raisons physiques, par exemple, ou parmi ces raisons, l'emprise de l'automobile sur l'espace public. Il n'y a plus d'endroit où on peut être tranquille, ne pas être renversé, ne pas être mis en danger donc par la circulation routière ou par toutes sortes d'autres raisons. Pas non plus, beaucoup de temps pour de liberté, parce qu'il y a toutes sortes de bonnes choses que les adolescents doivent faire et qui leur sont prescrites lorsque ça n'est pas par le système éducatif, ça peut être par leurs parents, puisqu'il n'est pas suffisant d'aller à l'école, faut-il encore avoir du soutien scolaire, faut-il encore apprendre à jouer aux échecs, puisque les échecs ont été à l'honneur dans un club, et développer sa motricité dans un autre. Bref, il ne reste plus beaucoup de temps pour soi, et ces technologies leur permettent de se reconstruire des espaces-temps privatifs. Tu me parles du temps ? 5, d'accord. On parle d'espace-temps, donc le temps, 5 minutes. Que se passe-t-il lorsque les jeunes considèrent ces technologies telles qu'elles sont utilisées à l'école ? Alors, je dis l'école ici, E majuscule, dans le système éducatif. Eh bien, ils la vivent comme une intrusion potentielle des adultes, une prise de contrôle de plus dans leur vie privée, puisque les technologies numériques sont d'abord mobilisées pour reconquérir ces espaces privatifs non contrôlés par les adultes. Donc, finalement, contrairement à ce que beaucoup pensent de la motivation intrinsèque des technologies lorsqu'elles sont importées dans le système éducatif, à l'école, dans la classe, les élèves sont assez réticents. Et lorsque l'on observe de plus près ce qu'ils en pensent, eh bien, on peut dégager deux éléments. On peut dégager deux éléments et qui font très plaisir aux pédagogues, de mon point de vue. En tout cas, moi, qui me font très plaisir. C'est que s'il y a motivation inhérente à l'usage des technologies, eh bien, elle ne vient pas des technologies. Parce que la motivation des technologies, pour eux, est ailleurs. Elle est dans l'usage qu'ils en font avec leurs amis. Et elle est aussi souvent, il faut bien le dire, avec des artefacts qui sont autrement plus excitants que ceux que le système éducatif leur propose. Et là, peut-être que les éditeurs publics et privés, je sais que ça coûte cher, pourraient, ils le font depuis longtemps, mais continuer à réfléchir à cette question-là. Mais quand on observe ça de façon, quand on analyse ça de façon plus précise, si, ou plutôt quand les élèves sont motivés par des activités d'apprentissage médiatisées, ils le sont par l'activité. C'est-à-dire ce qui prime, c'est l'activité, et ce n'est pas la technologie. Donc, ils font très rapidement deux catégories. Les activités médiatisées qui ne sont pas motivantes et qui sont même plutôt contre-productives, parce qu'en plus d'avoir l'activité elle-même de base qui a ses difficultés, ses intérêts, ses limites, il faut en plus prendre en considération la couche technologique qui peut présenter sa propre complexité et ses propres difficultés. D'ailleurs, au passage, des travaux ont montré que dans ce cas-là, les performances des élèves sont en général moins bonnes, parce que la performance sur le fond de l'activité est parasitée par l'implication, l'attention portée aux technologies. Et donc, ça valorise l'idée que ce qui est au cœur de tout ce dont on parle, c'est la qualité, la pertinence de l'activité d'apprentissage qui est proposée aux élèves. Et voilà, il veut que je conclue, Bruno, donc je vais le faire. J'avais au moins trois ou quatre pages, je ne vais pas les dérouler. Je vais terminer sur le dernier point, et qui est évidemment important, que je ne vais pas pouvoir détailler complètement. Cela suppose, pour que ça fonctionne, une sorte de réinvention des espaces-temps scolaires. Alors, les jeunes les réinventent. Alors, nous, les adultes, pédagogues, spécialistes de technologies éducatives, on veut les réinventer avec toutes sortes de stratégies et d'outils aussi. Les ENT et l'école numérique rurales en font partie, on l'a dit tout à l'heure. Mais les jeunes se le réorganisent l'espace-temps scolaire et notre travail montre aussi comment ils s'approprient des technologies que l'école ne leur fournit pas, mais pour des activités qui sont assez strictement scolaires, comme l'organisation communautaire de la façon dont on va se débrouiller avec l'exercice de maths que le prof a prescrit, par exemple. Et inversement, et j'en termine là, les élèves et les jeunes aimeraient, souhaiteraient, et je pense que c'est une question difficile, mais une question importante, qu'une fois passée la porte de l'école, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont plus des adolescents, mais des élèves, eh bien, on leur laisse la possibilité, et je ne sais pas de quelle façon, de conserver les pratiques qu'ils ont des technologies au service de leurs relations sociales. Et je pense que, je vais boucler sur mon introduction, la décision du Missouri n'est pas la bonne. La bonne décision à prendre, je ne la connais pas. Elle est bien sûr d'ordre bien plus éducatif que d'ordre de la censure. Et qu'il est très compliqué de mettre, dernière phrase, en place une censure, parce que les technologies dont disposent nos élèves font totalement abstraction des moyens technologiques de contrôle dont nous disposons nous-mêmes. En clair, les listes noires, listes blanches qui filtrent les accès Internet des élèves dans les établissements scolaires sont totalement concurrencés par les accès 3G qui nous permettent ici de relever nos mails quand le CNAM ne nous a pas fourni d'accès Wi-Fi. Bon, merci.
Merci beaucoup, Jean-François. Des questions, des remarques, des réflexions dans la salle qui souhaitent intervenir sur cette question. Et une question là-bas, madame. Merci. Si vous voulez vous présenter.
Oui, François Serrero, je suis les innovations sur l'Académie de Créteil. Donc, je voulais dire que ce que vous venez de dire, monsieur Cerisier, me parle énormément parce que, effectivement, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit avant au sujet des pratiques enseignantes. Il me semble qu'effectivement, les enseignants n'utilisent pas, n'innovent pas vraiment avec les nouvelles technologies, mais ils les utilisent, comme il a été dit tout à l'heure, en les adaptant à leurs propres pratiques. Donc peut-être que la chose importante, c'est pas tellement d'empiler des nouvelles technologies les unes après les autres qui coûtent très cher, comme on nous l'a fait remarquer tout à l'heure, mais ça serait plutôt d'encourager les enseignants à innover et de leur donner cette liberté, effectivement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Merci. Qui veut... Jean-François ?
Oui, je voudrais réagir de deux façons à ce que vous venez de dire. Alors, ce qui va me permettre de dire ce que j'avais prévu dans une page précédente et que je n'ai pas pu aborder. Par rapport à ce que vous venez de... Par rapport à ce que vous venez de dire, alors, bon, on connaît bien, finalement, enfin, ont été établies de façon assez claire les raisons pour lesquelles un individu utilise ou n'utilise pas, met en œuvre ou ne met pas en œuvre un objet technique quel qu'il soit. Et les technologies dont on parle font partie d'un ensemble plus vaste de ces artefacts technologiques. Et l'élément le plus déterminant n'est pas nécessairement celui qu'on croit. Pendant très longtemps, pendant des années, on a affirmé que ce qui était le plus important pour décider l'usage par un enseignant d'un logiciel, par exemple, c'est que ce logiciel devait être intuitif, qu'il devait être donc facile à utiliser, etc. Et en fait, non. Ça compte, ça joue, mais le plus important, c'est la perception qu'il a de l'utilité de l'utiliser, de le mettre en œuvre. Et moi, je voudrais vraiment affirmer ça très fort, ça a été dans de nombreuses expériences de terrain vérifiées, et d'indiquer qu'il y a une très grande différence, ou plutôt une grande confusion que l'on fait, entre l'utilité perçue par l'usager et une sorte d'utilité intrinsèque dont je pense qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut projeter l'idée que telle ou telle technologie aurait telle ou telle utilité. En fait, ça n'est pas vrai. L'utilité n'est que celle que perçoit celui qui va la mettre en œuvre, qui sera ensuite, qui se vérifiera ou non dans l'usage. Et puis, pour réagir à votre propos, je voudrais me permettre de décrire un tout petit peu le contexte dans lequel s'élaborent aujourd'hui les recherches que nous faisons à Poitiers. Non pas pour faire de la promotion de Poitiers, mais un petit peu quand même. Donc moi, je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle TECHNE, T-E-C-H-N-E, Technologie numérique pour l'éducation. Je précise l'orthographe parce qu'il y a eu un laboratoire il y a quelques années avec le même nom, mais pas la même orthographe. Et nous, c'est un laboratoire nouveau et qui, dont le projet scientifique porte sur l'acculturation numérique et l'appropriation des technologies numériques par les différents acteurs du champ de l'éducation. Les élèves, les enseignants, les parents, etc. Les cadres du système éducatif. Et nous avons opté pour, c'est un point de vue vraiment épistémologique, pour une organisation de nos travaux qui fait plus que l'aller-retour, cette question a été évoquée ce matin, entre le laboratoire et le terrain. Je pense qu'il y a des approches qui peuvent ou qui doivent être des approches de laboratoire et d'autres qui doivent être des approches de terrain et qui doivent donc mobiliser les acteurs de terrain. Alors, on peut l'appeler autrement, hein, recherche-action, recherche-innovation, tout ce que vous voulez. Et pour ce faire, nous avons, dans le cadre d'un partenariat territorial représenté ici d'ailleurs, tout à fait singulier, mis en place, ou nous mettons en place actuellement, un Living Lab, c'est-à-dire une démarche de recherche et d'innovation fondée sur la co-construction avec les usagers eux-mêmes. Et je termine pour dire juste que le contexte est très favorable à Poitiers de le faire avec un partenariat territorial, territoire particulier où nous n'avons pas l'IFE à Poitiers, ça c'est Lyon, mais à Poitiers il y a, on l'a entendu, le CNED, le CNDP, les EN, et aussi le CNAM et aussi une université. Et tous travaillent ensemble, en tout cas cherchent à le faire, dans le cadre d'un GIP qui s'appelle la Cité des Savoirs, et qui vise à vraiment prendre en considération le terrain pour avancer un peu dans le sens que vous indiquez.
Merci. Merci Jean-François. Une autre question tout en haut.
Merci. Je remercie Jean-François pour son intervention, parce que je pense qu'il est important effectivement d'entendre ce que les jeunes ont à dire. Je suis ravi qu'on ait un très beau parterre aujourd'hui. Je pense que si un certain nombre de jeunes étaient représentés dans la salle, je pense que nos discussions seraient probablement encore plus intéressantes et plus pertinentes, du moins du point de vue de qui est leur et qui est a priori celui que nous sommes censés faire avancer. Donc je pense que c'est très important, et effectivement d'aller dans ces démarches de co-construction avec ces jeunes, y compris avec les enseignants, d'accord, pour voir ensemble, parce qu'un enfant qui va à l'école ou un élève qui va au lycée sait qu'il doit y est parce qu'il doit apprendre quelque chose, et idéalement il voudrait apprendre quelque chose. D'accord. Comment est-ce qu'on part de ce besoin qu'il a d'apprendre, et comment est-ce qu'on peut l'aider à maximiser ses apprentissages, et comment on peut faire en sorte que les apprentissages qu'il acquiert dans le cadre scolaire lui permettent d'augmenter encore ses apprentissages quand il sortira de ce cadre scolaire, puisque la plupart d'entre eux ne resteront pas toute leur vie dans le système scolaire. Seuls ceux d'entre nous qui sommes devenus enseignants ont passé leur vie entière dans le cadre scolaire. La plupart des gens vont en sortir et vont continuer des apprentissages dans d'autres cadres. Donc peut-on arriver à aider ces jeunes à assurer cette continuité de l'espace-temps à la fois dans le cadre scolaire et hors du cadre scolaire, pendant les périodes de formation et en dehors de ces périodes de formation, et l'apprentissage tout au long de la vie? Je pense que ça, c'est des éléments absolument clés, et je suis ravi que vous ayez avancé dans cette direction, parce que c'était la première fois qu'on le faisait aujourd'hui.
Merci beaucoup. Jean-François, tu veux réagir? Et puis je pense que derrière ça, notre ami Jean-Michel Cornu aussi va intervenir là-dessus.
Bon, en un mot, une formule simple, mais finalement qui ne donne pas tellement de prise à la pratique ensuite, je pense qu'il faut rompre avec la façon dont on considère l'élève et considérer l'individu, avec ce qui, comme l'enseignant, ce qu'il fait avant d'entrer à l'école, ce qu'il fait après en être sorti, et tout ça est brouillé, parce que ce qu'il fait ailleurs qui est scolaire, ce qu'il fait dedans et ce qui n'est pas scolaire, c'est donc considérer intégralement la personne, l'individu, l'adolescent, pour ce qui nous concerne ici, et non pas en avoir une vue réduite à l'élève en projetant sur lui ce cadre qui est quand même assez stérilisant.
Merci beaucoup. On va donner la parole tout de suite à Jean-Michel Cornu, parce que je pense qu'une partie de son intervention va abonder, enfin, ou tenter d'apporter un autre éclairage sur votre question. Jean-Michel.
Merci. Alors oui, j'aimerais vous parler d'usage, effectivement. On a prononcé plusieurs fois le nom, là, justement, récemment. Parce que souvent, quand on parle de technologie, alors quand on n'est pas trop techno-déterministe malgré tout, on part du point de vue de la technologie, de l'offreur, et on parle de service. Alors le service, c'est ce que on vous offre, c'est ce que les fonctionnalités qui sont disponibles. Et puis, j'aimerais parler d'usage, c'est ce que les gens en font vraiment. Et donc, effectivement, Jean-François Cerisier nous a déjà présenté ce que les enfants faisaient directement. Alors, ça fait une différence parce que tout à l'heure, on parlait d'adopter, par exemple. Adopter, c'est un terme de service. Et on va parler plutôt de s'approprier. D'abord, c'est un verbe transitif, donc il y a deux types de verbes. Et adopter, eh bien, c'est faire sien en décidant de suivre. Alors, vous pouvez adopter Canal+, vous payez, et puis vous avez un truc avec un flot de télévision qui vous permet de fournir du temps de cerveau disponible, par exemple. Ou alors, vous pouvez vous approprier quelque chose, et à ce moment-là, c'est faire sien en transformant pour adapter à son propre besoin. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une nouvelle maison et que vous commencez à changer même les papiers peints, vous n'avez peut-être pas changé toute la maison, mais vous avez commencé à vous approprier un certain nombre de choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on prend une démarche service et qu'on essaie de voir adopter, la question c'est, mais bon sang, pourquoi ils nous ont toujours pas adopté tous ces bazars-là? Ils nous font baisser la moyenne, on n'arrive pas à avoir exactement les statistiques qu'on voulait. Mais si on prend une approche plutôt s'appropriée, eh bien, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la salle, c'est qu'est-ce qui va nous encourager à nous approprier les choses? Et je voudrais juste, puisqu'on a beaucoup parlé de jeunes, j'aimerais parler un peu de mes parents qui ont un peu plus de 80 ans et qui, me voyant avec un ordinateur, me disent « c'est sympa ton truc là, mais bon, nous déjà on n'y arrive pas avec le Minitel ». Et puis je leur dis simplement comme ça, bon, j'ai essayé de leur montrer 2-3 fois et ça, c'est un échec absolument patent. Et puis un jour je leur dis « ben, effectivement on est 4 enfants et nous on échange déjà sur Internet ». Une semaine après, ils avaient un ordinateur, ils maîtrisaient parfaitement le web, le mail, etc. Mais ils n'avaient absolument pas appris le mail ni l'ordinateur. Ils avaient juste appris à communiquer avec leurs enfants avec, eh bien, effectivement, ce que Jean-François Cerisier a appelé la motivation ou l'attention par les activités et non plus simplement par ça. Alors, je ne vais pas vous dresser un grand panorama des usages parce que ça serait un petit peu difficile, mais je voudrais plutôt prendre le petit bout de la lorgnette avec un exemple particulier en partant d'un point que nous a dit tout à l'heure François Taddeï, c'est la croissance exponentielle des savoirs. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait apprendre pour se préparer au monde de demain? Alors, il y a quelques dizaines d'années, on apprenait toutes les préfectures, sous-préfectures de France. Bon, aujourd'hui, quand même, pour être à peu près dans un monde un peu plus mondialisé, il faudra que j'apprenne les préfectures et sous-préfectures de l'ensemble des 200 pays de la planète, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et puis probablement, il y a bien d'autres choses qu'il faudra que je sache. Donc finalement, on voit bien que l'intérêt, c'est aussi d'essayer d'apprendre à repérer, à trouver, etc. Alors l'idée, c'était de dire, eh bien, est-ce qu'on pourrait essayer d'implanter ce virus ICANN dont François Taddeï parlait ce matin, c'est-à-dire aller dans le vrai monde et faire des choses. Ou alors ce que Claude Bédamou disait, en disant finalement, la classe est dans la cité. Alors, bien sûr, il y a aussi ce que disait Luc Trouche, qui était chacun chez soi, le maître dans sa classe, mais on peut essayer de trouver la double nécessité, le juste milieu, et bien sûr, eh bien, on peut aussi imaginer que certains enseignants, non pas en les forçant, sûrement pas, ça marchera jamais, mais s'ils y trouvent leur propre intérêt au niveau pédagogique, puissent essayer de voir comment insérer, effectivement, des aspects, un projet international à l'intérieur de la classe. Alors pour ça, eh bien, essayons de regarder sur un projet qu'on a lancé en juin, qui s'appelle Imagination for People, qui consiste simplement à repérer et soutenir ce qu'on appelle les projets socio-créatifs. Des fois, on parle d'innovation sociale, mais alors là, personne ne comprend. Mais on va dire simplement de toutes les bonnes idées pour vivre ensemble. Alors ça peut être déjà motivant parce que quand on est quand on est des jeunes ou vieux ou de n'importe quel âge, eh bien participer à un projet international, mettre sa petite graine, c'est un petit peu comme dans Wikipédia, c'est très motivant. Alors c'est vrai que pour un enfant de 8 ans, participer à Wikipédia, ceux qui ont écrit effectivement Black Cowan Bees, là les enfants de 8 à 10 ans, ça c'est super, mais ça va pas être très très facile de faire contribuer tous les enfants sur un encyclopédie. Ça serait génial. Et peut-être certains le feront. Mais imaginons simplement qu'on leur demande de repérer des idées, même autour de chez eux, des bonnes idées, et de les partager, tout simplement. Alors pour ça, eh bien, essayons de voir un petit peu ce que ça donne. Et dans ce projet-là, comment ils pourraient s'insérer dans un projet où il y a finalement une base de projet en bas, une communauté
Et là, il ne s'agit pas qu'il soit tout seul, mais en même temps qu'il soit quand même en groupe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir un enfant ou une personne écrivant tout seul face à son ordinateur, mais un petit groupe local écrivant et participant à une communauté internationale, et puis un centre de ressources. Alors pour ça, eh bien, zoomons un petit peu sur les projets. Et c'est quoi un projet ? Finalement, c'est quelque chose de très très simple, parce qu'on ne va pas tout réécrire. Donc finalement, on peut imaginer que si on a des enfants, même jeunes, eh bien, voilà par exemple l'affiche du projet de Imagination for People elle-même. Eh bien, c'est, vous voyez, il y a 3-4 paragraphes. 3-4 paragraphes, c'est quelque chose qu'on peut écrire aussi à plusieurs en classe pour essayer de définir un peu mieux ce qu'il y a. Alors, c'est vrai, il y a un titre aussi, puis il y a, après avoir écrit les 3-4 paragraphes, c'est bien d'essayer d'écrire ce que vous avez tout en haut, le projet en une ligne, ce qui n'est pas très facile, ça nécessite un petit peu de synthèse. Et puis après, eh bien, bon, j'irai peut-être pour les plus âgés, eh bien, se poser quelques questions, par exemple, en quoi ce projet est-il singulier et créatif, quelle est la plus-value sociale, etc. Mais certains de ces projets, déjà, d'ailleurs, n'ont pas forcément ces choses remplies ou non. On est dans un système de type Wikipédia. D'ailleurs, une des participantes de ce projet est Florence Desvoires, qui était l'ancienne présidente de Wikimedia Foundation, à un moment très particulier, je crois que c'était entre 2003 et 2007, c'est-à-dire le moment où c'est passé d'un petit projet très sympathique, justement au fin fond de Californie, à ce projet international strictement impossible et stupide, et bien sûr, et qui marche actuellement parfaitement. Et donc, on peut imaginer effectivement de rédiger des choses comme ça. Alors, ça serait quoi ? Eh bien, ça peut être des projets du genre le Book Crossing. Alors ça, c'est un projet très simple, juste pour vous donner quelques petits exemples de ce que ça peut donner. C'est des gens qui laissent un livre sur un banc ou n'importe où, dans une école ou autre, et puis vous avez simplement une petite URL, et puis vous pouvez indiquer comme ça, vous lisez le livre, et puis vous l'indiquez, et puis vous le relaissez à quelqu'un, et puis vous pouvez suivre la trace du livre un peu partout. Alors ça, c'est bien, parce que c'est un projet où peut-être des jeunes découvrant ce projet, eh bien, disent, bah, tiens, pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes ? Et là, à ce moment-là, on a un processus qui commence à devenir intéressant. D'autres types de projets pourraient être des projets, par exemple, si on est en Afrique, eh bien, le projet Pézinet, c'est un projet qui est un projet de santé en Afrique. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre à l'école elle-même, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de parler aussi de chez nous, de ce qui se passe, par exemple. Alors dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'est un projet au Mali, et en plus, il a été d'abord rédigé en anglais, parce que c'est des Anglais qui l'ont repéré, et on peut imaginer que dans certaines classes, eh bien, on puisse se dire, bah tiens, j'ai pas trouvé le projet, mais je vais peut-être essayer d'en faire une version française. Là-dessus. Alors, on peut imaginer d'autres types de projets. Allez, encore un petit dernier pour la route, parce que celui-là, je l'aime bien. C'est des projets qui nous obligent à réfléchir autrement. Alors, c'est vrai qu'on apprend à faire un raisonnement pour arriver d'un point de départ, un raisonnement et une conclusion. Alors, il y a des gens, ils réfléchissent mal et ils réfléchissent tout de travers et ils font des trucs intéressants. Architecture Gardens, qui est un projet japonais fait par des architectes, c'est une maison complètement ratée. C'est-à-dire que le sol n'est pas droit. Les interrupteurs sont bas, il faut se baisser pratiquement pour les allumer, et en plus d'un jour sur l'autre ils n'allument même pas la même lumière. La télévision est au plafond, donc c'est quand même pas très confortable pour regarder. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert une maison aussi mal fichue ? Eh bien, c'est une maison en fait qui est prévue pour des gens qui ont une certaine catégorie de la maladie d'Alzheimer, et évidemment dans notre raisonnement classique on dirait, ben, on va tout faire pour leur faciliter la vie, et là on fait l'inverse, on les stimule. Et l'observation assez étonnante, c'est que justement, en les stimulant, eh bien, on a vu freiner la maladie et même régresser. Alors, à l'époque où il n'y avait pas encore ces banques de projets mondiaux, où ce n'était pas très facile, le MIT, qui avait quelques moyens quand même, avait repéré ce projet-là, s'est dit, c'est bizarre, ils l'ont testé sur pas mal de personnes qui avaient les maladies d'Alzheimer, et effectivement, ils ont décidé de monter des appartements comme ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce type de projet-là aussi, c'est que ça oblige des fois aussi à réfléchir un peu autrement. C'est-à-dire de ne pas croire que simplement parce qu'on est arrivé à une conclusion, que c'est la seule conclusion possible, et des fois, même la conclusion opposée peut être aussi intéressante. Donc, ça pousse un certain nombre d'idées un peu pédagogiques. Allez, encore un petit dernier, ce qui se passe au Venezuela, mais là qui est intéressant parce qu'il concerne des jeunes, justement. C'est un projet qui existe dans les favelas. Et alors, vous savez, quand on est un enfant des favelas, alors, imaginez des enfants de banlieue, par exemple, française, qui écriraient ce projet-là. Normalement, on vous dit, de toute manière, vous êtes fichu pour la vie. C'est, de toute manière, tu viens d'un favela, tu ne feras jamais rien dans la vie, etc. Alors, ces enfants des favelas, eh bien, ils ont monté un orchestre de musique, mais pas n'importe quoi, un orchestre de musique classique. Oui, on est bien au Venezuela, mais ils montent un orchestre de musique classique. Alors, c'est tellement étonnant, et puis ils ont tellement bossé, que d'une part, évidemment, en faisant un orchestre, faut apprendre à faire des choses ensemble. Ça, c'est intéressant. Mais en plus, ça a étonné les médias, et donc, ils ont commencé à être invités à la télévision. Résultat, il y a des centaines d'orchestres
El Sistema qui se sont montés au Venezuela. C'est incroyable le nombre d'orchestres classiques d'enfants qu'il y a au Venezuela. Et résultat, eh bien, ces enfants-là sont extrêmement valorisés, justement, et se retrouvent dans des situations inverses. Ce qui est intéressant, c'est qu'imaginez qu'un enfant, par exemple, de Dakar ou de Paris ou de n'importe où, eh bien, puisse écrire aussi sur des projets qui sont eux-mêmes des projets d'enfants dans d'autres pays. Alors on peut imaginer comme ça aussi bien d'autres projets, mais le critère c'est de dire finalement ces projets-là, eh bien, ils doivent être simplement innovants, socialement utiles et puis si possible réplicables. Alors ça c'est bien, mais si on fait ça d'à peu près partout, vous allez me dire, oui mais comment on va faire, tout le monde n'a pas la connexion internet, on n'est pas encore des technophiles, etc., etc. Alors j'ai mis une petite clé USB à côté du projet, enfin de la version project, puisqu'il y a des transparences en français et en anglais, parce que en fait on est en train de mettre le serveur aussi directement, complètement sur une clé USB. Donc on va probablement tester ça lors de notre prochain forum InnovAfrica que l'on va faire en décembre à Ouagadougou, où on rassemble effectivement des innovateurs de toute la sous-région. Et là l'idée c'est de se dire, mais finalement eh bien, on pourrait très bien imaginer dans une école commencer à remplir, et puis le jour où cette clé USB elle arrive à un endroit où c'est connecté, eh bien, ça synchronise avec le serveur, ça reprend les nouveaux projets du serveur, et puis ce qu'on a écrit nous-mêmes, eh bien, hop, on les envoie aussi sur le serveur. On peut imaginer d'aller encore plus loin et puis de dire finalement ce qui est important c'est pas vraiment la partie techno. Tout à l'heure j'aimais beaucoup ce que vous disiez, qu'on disait la culture à l'ère du numérique. En fait quand on a présenté Imagination for People en France, c'était la toute première fois, c'était à Montpellier, et avec une particularité, c'est qu'ils nous avaient lancé un défi, ils nous avaient dit ok, mais alors il y aura pas de vidéoprojecteur, on fait ça dans un théâtre de verdure. Alors, ben, d'accord, ok, on se lance là-dedans. Donc, on a scénarisé ça, on a monté ça avec des petites scénettes qui présentaient des projets. On interrogeait des personnes qui répondaient comme un ordinateur, sauf qu'ils répondaient sans ordinateur avec des vraies voix, tout simplement, en répondant à une interview, etc. En quoi votre projet est socialement utile, etc., etc. Et puis, ben, ça, résultat, ce qui est intéressant, c'est qu'on a probablement fait quelque chose de très différent de si ça s'était passé il y a 30, 40 ans, probablement, mais sans aucune machine numérique. Donc finalement, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce qui peut se passer là-dedans, c'est un travail qui est à l'ère du numérique, où on ne fonctionne pas comme, de la même manière entre nous, en réseau social, et effectivement non pas Facebook, comme tout à l'heure le disait justement Jean-François Cerisier, mais de façon vraiment en réseau. Alors pour ça, eh bien, il y a une partie effectivement communauté, qui et l'idée est de dire, mais finalement, est-ce que ce qui peut se passer dans une classe, parce que ce qui est intéressant, c'est pas simplement de faire son petit truc tout seul, peut aussi travailler là-dedans. Alors, on s'est rendu compte qu'on a monté des petits groupes de travail. Alors, pour l'instant, le projet est très jeune. C'est des groupes de travail principalement d'adultes. Vous en avez un qui s'appelle Hyper-Rhône-Alpes là. Vous avez un autre en haut qui est à Ouagadougou, justement, en train de préparer, de repérer des projets, de voir des projets de la base qu'ils pourraient mettre en œuvre eux-mêmes, etc. Et on a aussi un petit groupe qui devrait démarrer à l'école normale supérieure, justement, en lien avec l'IFE, pour faire ça avec des élèves de l'ENS, pour repérer des projets, se mettre ensemble et se dire finalement on se réunit. Alors ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, le côté matériel de réunion aussi a imprégné le numérique. C'est-à-dire que c'est presque le numérique à l'heure du matériel. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que même dans les grands groupes, par contre certains groupes sont au niveau d'un pays, eh bien on essaye de se réunir au moins une fois par mois, et si on n'arrive pas à se réunir physiquement parce qu'on est trop loin, on le fait eh bien par les outils numériques tout simplement. Donc finalement, eh bien, ces groupes nous permettent de faire pas mal de choses. C'est finalement eux qui permettent de faire peut-être la zone intermédiaire dont parlait tout à l'heure Serge Poutelajus, entre les amateurs et les produits professionnels diffusés, pour arriver à fabriquer un certain nombre de choses, et en particulier des ressources. Alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces petits groupes, qui pourraient être demain des classes, eh bien, commencent à produire non seulement des fiches, des projets stimulants qu'ils ont trouvé intéressants, ils sont diffusés très largement, donc c'est sympathique. Donc ça veut dire que c'est fantastique, parce qu'on est drôlement valorisé, évidemment, quand on se retrouve dans un site international qui lui-même est multilingue, et qu'éventuellement, en plus, on reçoit d'autres choses. Et finalement, eh bien, on peut imaginer différentes déclinaisons. L'une d'elles est intéressante. J'avais vu il y a quelques années un projet qui était né au Québec. C'était à l'Institut Saint-Joseph. Et le directeur avait décidé de mettre un blog à tous les élèves, à tous les profs. Alors, il y avait comme le choix entre blog privé, hein, il y a que nous qui voyons ça, et blog ouvert. Donc, tous les enfants avaient un blog ouvert, c'était une école primaire, et tous les profs avaient un blog privé. Bon, au bout de 6 mois, tout le monde avait un blog ouvert, évidemment, mais avec la pratique. Mais ce qui était très intéressant, c'est que la façon même d'aborder les devoirs que les élèves mettaient en ligne et qui pouvaient être vus par tout le monde faisaient que finalement ça donnait une maturité totalement différente, une façon de voir différente. Imaginez effectivement demain, donc là c'était des jeunes, des enfants de 8 à 10 ans à peu près, discutant, ayant des gens qui commentent leurs devoirs. Ils avaient fait, par exemple, ils étaient venus faire le compte rendu d'une réunion internationale qui se passait à Québec sur justement le multimédia d'apprentissage. Et finalement, ils avaient réussi à faire des choses assez intéressantes. J'étais très content parce que, tant qu'orateur, pour moi, j'avais mis un petit commentaire et tout ça. Et finalement, il y a une grosse valorisation. Et donc, ils avaient apporté des ressources, mais qui étaient totalement utiles, y compris pour les adultes. Et là, pas simplement sur les abeilles, mais vraiment sur des sujets très larges. Autre exemple aussi avec lequel on a prévu de travailler, c'est une web radio des Marmots qui a été montée par le Monde des Possibles, qui est une association de Mons, qui essaie de travailler justement avec les jeunes, y compris les jeunes qui ont des difficultés de scolarisation parce qu'ils sont immigrés, ils ne parlent pas forcément bien la langue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ? Eh bien, ils montent une radio. Alors, imaginez des ressources comme ça, d'enfants qui se croisent, d'enfants et d'adultes d'ailleurs, et qui se croisent, qui permettent d'échanger sur des projets, et puis surtout qui sont eux-mêmes diffusés et valorisés. Voilà un peu tout l'objet en fait, pour faire un petit peu ce que François t'a dit tout à l'heure, appeler créer un cadre de liberté et d'innovation. J'aime beaucoup ce terme-là parce que finalement, l'idée c'est vraiment d'essayer de permettre, et là c'est un projet évidemment qui ne concerne pas que les enfants, mais de faire en sorte que la démarche même d'activité, d'appropriation des usages à l'ère du numérique, en fait, eh bien, se fasse d'une part par la valorisation au sein d'une grande communauté, pas simplement en étant noyé dans cette communauté, mais en étant un petit groupe qui peut être une classe, avec une démarche du professeur qui, évidemment, dans ce cas-là, est différente. Elle n'est pas simplement d'apprendre, de connaître tous les projets, mais au contraire, d'apprendre à chercher. Et voilà un petit peu quelques exemples d'usages sur lesquels ce qu'on a testé, effectivement, aujourd'hui, permettent de montrer un taux d'appropriation par les élèves assez important. C'est évidemment, je ne sais pas si on dépassera les 0,06% de ce que disait Gabriel Cohn-Bendit, mais ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que des élèves, y compris des élèves seuls dans des associations d'élèves, commencent à s'organiser aussi pour faire ça. Et tant mieux si ça peut se faire aussi dans un cadre pédagogique. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Y a-t-il quelques questions dans la salle ? Une ?
Je voudrais rectifier, je n'avais rien contre ces AMAT. Hein. Je suis pour les 0,06%. Je me considère faisant partie de cela. Donc, les bons, puisque je suis dedans, évidemment. Non, il y a une chose aussi pour le divorce entre les adultes, quand même, ou en tous les cas les enseignants et les élèves. Pour la première fois aujourd'hui, des tas de jeunes écrivent sur ce truc-là. Ah ! Horreur ! On ne comprend rien, c'est plein de fois. Mais attendez, c'est quelle langue qu'ils parlent ? Alors, au lieu d'utiliser le fait qu'enfin ils écrivent, vous savez, c'est la deuxième grande révolte, disons, contre l'orthographe. La première, c'est la guerre de 14, hein, où on a écrit. Les parents, les enfants, c'est illisible si vous ne lisez pas à voix haute, mais on s'en foutait. Il fallait savoir des choses sur les gens qui étaient au front, donner des nouvelles. Bon, là, c'est pareil. Et au lieu d'utiliser ça, de le faire... C'est le mauvais. On crée encore le clivage alors qu'on devrait être heureux, enfin, de même qu'on devrait être heureux quand les gosses se passent des petits mots d'amour en classe. Enfin, ils écrivent, hein, au lieu de... Bon, voilà. Je voulais dire, cette utilisation de ce qu'ils écrivent et comment ils écrivent, et voir quel rapport on pourrait faire avec l'écriture normée. Bon, je ne reviendrai pas sur ma bagarre contre l'orthographe française, cette codification qui a été faite par une bande de cuistres qu'on appelle des académiciens. Heureusement, les Italiens, les Espagnols, ils peuvent philosopher avec F et acheter des médicaments dans les pharmacies avec F, qui sont tout aussi efficaces que les nôtres avec PH. Mais je veux dire qu'ils compliquent quand même sacrément la vie des enfants ici quand ils doivent apprendre à écrire. Bon, je dis, essayons d'utiliser ça et de faire la médiation entre ça et la bonne écriture valorisée par les académiciens et les enseignants, etc.
Merci.
Alors peut-être justement, je voudrais réagir là-dessus, parce que ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut voir que souvent, là, on se dit, bah, tiens, comment on pourrait trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, dont celui-là. Et si, comme le disait tout à l'heure justement Jean-François, on essayait de demander aussi aux jeunes. Et alors, je vais vous raconter juste la fin de l'histoire que je ne vous ai pas racontée sur l'Institut Saint-Joseph. C'est qu'à un moment donné, quand même, ça marchait bien, mais sauf que la plupart des commentaires, c'était dire, il y a une faute d'orthographe là. Alors, les jeunes eux-mêmes, sans les profs, se sont réunis en disant, bon, on commence à avoir un peu ras-le-bol de ça, et ils ont inventé un truc qui est particulièrement intelligent, qui est peut-être plus intelligent que ce que moi j'aurais pu trouver pour eux. Ils se sont dit, voilà, on va faire un label qualité. Alors, il y a un petit tampon sur un texte. Ça veut dire qu'on s'est relu. Donc, on a fait au maximum. Par contre, déconnez pas, n'oubliez pas qu'on a quand même 8 à 10 ans et que, voilà, on fait notre maximum. Donc, on vous garantit avec ce label qualité qu'on a fait notre maximum. Maintenant, ne nous emmerdez pas avec les problèmes d'orthographe et puis commentez-nous sur le fond. Et donc, apparaît dans le blog, et bien partout, des petits tampons, label qualité, qui a poussé les jeunes, effectivement, à s'entraider les uns les autres pour l'orthographe.
Merci, merci beaucoup. On va remercier nos 4 intervenants. On peut les applaudir quand même.
Bravo également au président de cette table ronde formidable. Merci, merci Bruno, merci Jean-Michel.